après un stage à Radio France, un très très grand patron de Radio France, qui est aujourd'hui parti, me dit « C'est formidable, ton stage de 2 mois s'est très bien passé, je pense que tu peux obtenir un CDD, j'ai juste un problème, c'est que ton prénom, ça marche pas. » Le prénom Mohamed, ça donne l'impression que c'est Momo. Et Momo, c'est le vendeur de vaches qui rit de l'épicerie d'en bas. Est-ce que tu as pensé à t'appeler Maxime ou Léo? Voilà. Je suis sorti du bureau en lui disant, dans moins d'un an, je serai à la radio en direct dans une autre grande radio française. Et il me dit, on verra. Et 10 mois après, j'étais à la radio sur RMC.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'alignement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Des moments forts que vous pouvez retrouver dans mon nouveau livre « Pause pour une vie alignée ». Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça signifie, être aligné? Eh bien, être aligné, c'est être la vraie version de nous-mêmes. Pas la meilleure, pas la version idéale que l'on a l'habitude de montrer sur Instagram, mais celle que l'on est réellement, celle de la vraie vie. Sans cacher nos échecs, nos blessures, nos failles. L'alignement, c'est une rencontre avec soi-même. C'est donc évidemment le projet d'une vie. Mon but, avec ce livre, est de vous donner des pistes de réflexion, des outils et des exemples. Les miens, mais aussi ceux des personnalités incroyables que j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro pour vous aider à le trouver, à l'atteindre, afin d'être véritablement épanoui. J'ai évidemment hâte de lire vos retours. Maintenant, place à l'épisode. Vous pouvez le retrouver du lundi au vendredi à 19h sur France 5 et tous les dimanches à 13h sur RTL. Les habitués des médias l'auront sans doute reconnu. En 10 ans, mon invité d'aujourd'hui a su se faire une place de choix dans le PAF. Passé par RMC, où il a signé son tout premier CDI il y a seulement 19 ans, il commence en tant que journaliste sportif avant d'évoluer. Une carrière brillante et fulgurante qui fait suite pourtant à une jeunesse extrêmement difficile. Né à Oran, en Algérie, il grandit auprès d'un père violent qui le bat, lui et sa maman, avant de disparaître sans laisser de traces lorsqu'il a 9 ans. Comment son histoire familiale a forgé celui qu'il est devenu? Quel est son regard sur le journalisme d'aujourd'hui? Le temps d'une pause, il revient sur son parcours inspirant et nous emmène dans les coulisses du monde des médias en nous livrant sa vision du métier et ses espoirs pour la suite. Bonjour Mohamed Bouafsi.
Bonjour Alexandre Mars.
J'adore, là je sens l'homme des médias qui me parle. Bonjour Alexandre Mars, j'ai l'impression qu'on est vraiment à RTL là.
Je suis ravi d'être ici. Non, franchement, on n'est pas RTL, on est dans tes locaux et c'est vrai, il fait beau. On est bien accueillis, on passe un bon moment. Je suis ravi de te voir et je suis ravi de partager ce moment-là. Et je suis ravi d'être à la place que tant d'autres ont partagé il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. J'avais écouté plusieurs de tes podcasts et j'avais toujours trouvé ça intéressant. Pour tout te dire, je les écoutais dans la douche, en train de me préparer le matin ou sur le scooter. Donc tu vois, je dis tout, je suis extrêmement sincère, c'est aussi un défaut parfois. J'avais pris beaucoup de plaisir à les écouter, donc je suis ravi d'être ici.
Ah ben nous, on est ravis de t'accueillir. Déjà, j'ai la chance de t'avoir en pause parce que tes journées sont complexes, compliquées. Justement, t'arrives encore à prendre des pauses où ça devient de plus en plus difficile et comment tu fais toi pour justement... Ouais. Respirer.
Bah, en fait, ton livre a un sous-titre qui est très intéressant, c'est « Pour une vie alignée ». Et l'un de tes livres est « Pour une vie alignée ». Et ça, c'est la chose que je recherche le plus aujourd'hui. J'ai beaucoup couru après le succès, après la réussite, après les aventures médiatiques, etc. Et aujourd'hui, c'est facile à dire et on n'y arrive pas souvent. On se dit à chaque fois, dans 99% des cas, on se dit « On va aller chercher des pauses, on va aller chercher des moments de réconfort, des moments de calme » et on n'y arrive pas. Faut avoir l'honnêteté de le dire parce qu'on est tous... j'ai écouté beaucoup de tes podcasts et j'entends des très grands patrons qui ont accompli 100 000 choses de plus que moi dire « Oui, maintenant j'essaie de me recentrer, de me réaligner, etc. » Et je trouve ça passionnant parce que c'est ce que j'essaie de faire au quotidien et c'est compliqué. Vraiment compliqué et complexe. Et c'est compliqué de trouver des moments de pause. Je pars le matin de la maison environ à 8h30, quand j'ai pas de petit déjeuner. J'arrive à cet à vous, à la rédaction de cet à vous aux Invalides à 9h45, 10h, 10h en moyenne. On a une conférence de rédaction qui a lieu tous les matins vers 10h. Ensuite, il y a parfois des déjeuners, mais j'essaie de faire attention à ces déjeuners-là parce qu'il faut préparer la chronique, parce que dans cet à vous, j'ai une chronique d'actualité.
Il faut quand même un peu travailler.
Voilà, ça faut vraiment travailler. Il faut vraiment travailler pendant toute une journée avec une rédaction qui est assez exceptionnelle et formidable. Et ensuite, l'émission a lieu de 19h à 21h. Donc après, parfois, t'as aussi des des dîners avec des personnes du milieu de l'actualité politique, économique, etc. Donc c'est des journées qui sont très longues.
On va repartir sur cette enfance, avant cette carrière fulgurante, parce qu'on va le voir, tu as avancé très très vite sur l'échelon du journalisme. Tu nais en Algérie, au Oran. On peut pas dire que tu aies une connexion très forte, parce que tu es tout de suite amené à Paris, en France. Tu es d'abord à Paris, et puis tu vas déménager un peu plus tard. Je l'ai déjà dit deux fois, et je l'ai d'autant plus facilement que tu as écrit un livre là-dessus, un livre que je vous conseille à toutes et à tous, mais prenez votre paquet de mouchoirs à côté de vous, parce que je sais que les gens qui ont pu le lire n'ont pas terminé le bouquin sans pleurer un peu ou énormément. Ça s'appelle « Rêver sous les coups ». Tu as écrit ton enfance. Cette enfance, tu as décidé de prendre la parole, on était en 2021. Tu grandis dans une famille en situation irrégulière, ta maman étant dans des situations régulières, ton papa, et je devrais dire ton père, parce que c'est vrai que papa a une connexion très, encore une fois, où il y a une vraie relation, ton père extrêmement violent, là on n'est pas sur la petite violence, hein, c'est des séjours à la Riboisière, je crois que c'était le ce que tu dis dans ton bouquin, c'est que tu avais de la chance, c'était bien tombé dans ce petit appartement, cet appartement, parce que j'étais à une centaine de mètres de la Riboisière, extrêmement violent, avec ta maman et avec toi. Et là, on ne parle pas de la violence à 15-18 ans, parce que c'est la violence à...
Dès que je suis né. J'ai mis tout mon cœur dans ce livre-là. Je l'ai écrit avec Géraldine Maillet, qui a été formidable parce qu'elle m'a beaucoup écouté, parce qu'elle avait quelques méthodes qui m'ont permis de m'ouvrir, qui m'ont permis de réfléchir. Elle a adopté avec moi une méthode que EMR, je ne sais plus comment ça s'appelle, là où en fait, elle me donnait des souvenirs, des couleurs, elle me posait des questions très très précises sur des souvenirs, parce que c'est ce qu'on appelle dans la psychologie ou dans la psychiatrie, etc. Quand un cerveau fait reset, quand un cerveau a tout oublié, on appelle ça l'amnésie traumatique. Et en fait, les enfants oublient tout ou ne connaissent rien de leur petite enfance avant 3 ans. Parce que c'est naturel, c'est le cerveau qui fait ça. Moi, c'était avant 5-6 ans. Donc, c'était.
T'avais vraiment un blocage.
J'avais vraiment un blocage. Et pourquoi j'ai écrit ce livre de manière très, très simple? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai vu beaucoup de gens parler de leur douleur de l'enfance quand ils avaient 60 ans, 65 ans, 70 ans, 55 ans, quand ils étaient un peu plus dans le down de leur vie. Et ils ne représentaient pas grand chose pour les jeunes générations. Et en fait, l'histoire, elle est très simple. Je suis dans mon canapé, je suis en train de regarder une chaîne d'information. On est pendant le confinement. Et en fait, je ne dois pas être sur cette chaîne d'information à ce moment-là. J'étais en train de regarder une série sur Netflix. Au moment où je change d'épisode, je me dis, je vais aller préparer à manger. Et je mets cette chaîne d'information et je tombe sur une histoire d'un petit gamin dans le 93 qui s'appelle Daoudia, qui a 6 ans et demi, qui est décédé parce que il n'avait pas fait ses devoirs et son père l'avait tabassé. Et j'avais entendu le voisin de ce gamin dire j'avais suspecté des violences, j'avais entendu des cris, j'avais entendu des hurlements et je n'ai jamais réagi. Et je vais vivre toute ma vie avec le drame de ce petit Daoudia sur ma conscience. Et je me suis dit, dans cette affaire, il y a plusieurs personnes qui sont brisées. Tout d'abord Daoudia, 6 ans et demi, il n'y a pas d'âge pour mourir, hein. Mais surtout pas, et sûrement pas 6 ans et demi. Ensuite, il y a la victime qui est la maman, qui va toute sa vie vivre avec la mort d'un enfant. Ensuite, je mets ce voisin en troisième victime, parce que toute sa vie, il va se dire, j'ai entendu des cris.
J'aurais dû.
Alors peut-être qu'il va pas l'avoir toute sa vie, je suis d'accord, mais il va l'avoir au moins 10-15 ans. Ouais. Et ensuite, quoi qu'il arrive, il y a des proches, des frères et sœurs, etc. Je mets en dehors de la victime le père, hein, parce que quand on tue son fils dans une salle de bain avec des coups, hein, jusqu'à un enfant de 6 ans et demi, pour moi, on n'est plus une victime. Et je me suis dit, il faut que je révèle mon histoire. Au départ, j'avais pas envie de le faire. J'ai eu des discussions avec plusieurs de mes proches et qui m'ont dit, si tu ne le fais pas, t'es égoïste. Parce que tu pourrais être un exemple pour des gamins, pour des jeunes, et tu pourrais être un exemple pour des familles.
Tu t'as partagé assez tôt auprès de tes proches ton histoire?
Non. Mon meilleur ami Henri, ne le savait pas avant très longtemps.
Même quand tu le rencontres au collège, au lycée.
Ouais.
Tu
connais bien le livre. Au lycée, j'ai rencontré Henri, mon meilleur ami au lycée, il ne savait pas. J'ai mis plusieurs années à le dire à des gens et très peu de monde le savait. Et même mon entourage très proche ne le savait pas. Au travail, tout ça.
Et quelle était la réaction des gens quand tu leur en parlais rapidement? C'était beaucoup de compassion pour toi.
Le truc très drôle je le redis Alexandre et je te jure que c'est la sincérité, c'est de la franchise. Très peu de monde ne le savait. J'avais besoin de secret, j'avais besoin de cacher ça et j'avais encore une forme de culpabilité.
Merci de dire ça. Toi, quand tu arrives à ce moment-là, tu dis quoi à ces mamans? Tu vas me dire qu'il y a quelques hommes, on le voit dans les personnages, qui sont aussi battus, mais c'est essentiellement les femmes et les enfants. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que tu penses? Parce que ta maman, il faut bien le comprendre, était en situation irrégulière. Ouais. Donc, son plus grand risque, votre plus grand risque à tous les deux,
c'était de nous perdre.
Le tien, c'était qu'elle soit renvoyée. Ouais. Et toi, tu as resté ici parce que ton papa, lui, pouvait rester. Parce qu'il avait des connexions.
Il avait les papiers français.
Il avait les papiers français.
Mais en fait, je voudrais juste faire une digression pour finir sur le point précédent, sur pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que, Alexandre, et ça va toucher au vu de ce que tu fais pour les gens. J'ai envoyé une tribune à un ami à moi, journaliste, Hervé Gattegno, qui était le patron du JDD, journal du dimanche, et je lui envoie et je lui dis, juste Hervé, est-ce que tu peux lire ça et me dire ce que t'en penses? Et là, il lit la tribune et il me dit, mais c'est un truc de malade. Il me dit, franchement, est-ce que tu m'autorises à la publier dimanche? Il me dit, on est mercredi ou jeudi, il me dit, on va partir en bouclage demain et après-demain. Il me dit, t'as 24 heures pour réfléchir. Et là, j'ai réfléchi avec mes proches. Donc, on était grand max 2-3 personnes. Et je me suis dit, je vais révéler cette histoire. Et quand l'article est sorti le samedi soir sur le site internet, mon téléphone a brûlé. Mais vraiment, je recevais des notifications toutes les 2 secondes. Le dimanche... tout le monde lit l'article dans le JDD. Je reçois des messages de partout, du monde du sport, mon monde à l'époque, du monde politique, du monde économique. Et les messages les plus impressionnants qui vont relier la question que tu viens de me poser, Alexandre, viennent des associations. Et donc là, on me demande de faire des médias. On me demande de sortir. J'accepte d'en faire 2, pas plus. La radio télé de chez moi, Jean-Jacques Bourdin à l'époque des RMC. Et j'accepte de faire, ce qui est assez drôle aujourd'hui, Quotidien. Et quand je fais Quotidien, je sors de l'émission, mais je reçois des centaines de messages d'associations, de bénévoles, d'éducateurs. Et là...
Et de victimes.
Et je reçois des... C'est incroyable, mais vrai. Alexandre, dès le surlendemain, je reçois à RMC des dizaines de dessins d'enfants. Je t'en parle, j'ai les larmes aux yeux, tu vois, j'ai des frissons. Je reçois dès le surlendemain des dizaines de messages d'enfants. Des dessins, des « merci d'avoir parlé de ça, vous êtes comme nous », etc. Et le soir même de Quotidien, je reçois un appel de Fabienne Quiriot, qui était l'ancienne présidente de la Confédération Nationale des Associations de Protection de l'Enfance, la CNAP, qui protège Alexandre. Tu sais combien d'enfants en France? Tu vas être choqué. 300 000 enfants. 300 000 enfants victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Et elle me dit tout de suite, est-ce que vous pouvez vous engager auprès de nous? Est-ce que vous pouvez devenir ambassadeur? Et moi, quand j'aime quelqu'un, je réponds très vite oui. Et dès le week-end suivant, quasiment, ou 2 semaines après, on va se déplacer dans un centre éducatif fermé. J'arrive dans ce centre éducatif fermé et tout le monde me saute dessus, les gens ils me demandent de jouer au football avec eux, etc. Et tu me parlais des mamans, je vais avoir un discours pour les mamans, mais je commence par les jeunes parce que c'est les jeunes qui s'identifient à moi. Et là, il y a un gamin qui vient me serrer là, je lui serre la main, je présente ma main et il me dit « Retire ta main, toi, t'es qu'un bouffon, tu viens faire de la publicité ici sur notre gueule. » Et je me retourne et je dis à ma fiancée... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, je m'y intéresse pas parce qu'il avait vraiment, il avait mis sa tête contre moi. Et en fait, je me retourne, je vais jouer avec les autres gamins. Et au bout de 2 heures, voilà, cette personne me dit, va discuter avec lui. Va discuter avec lui, il a l'air d'être malheureux ce gamin. Et je vais discuter avec lui et je lui dis, écoute, je suis tranquille, on va se mettre de côté. On s'est mis tous les deux dans sa chambre, dans un centre éducatif fermé, c'est une prison pour jeunes. Hein. Ce gamin avait 15 ans. Et là, il me dit, t'es venu faire de la pub. Je lui dis, écoute, elle est où la pub là? Il y a pas de caméra. Regarde, on est dans une chambre, on est dans 5 mètres carrés. Il y a pas de caméra. Raconte-moi ce qui t'est arrivé dans la vie. Moi, je te raconterai ce qui m'est arrivé. Et il me dit, non, non, non. Je lui dis, écoute, oublie ta méchanceté, ta colère, parle-moi. Et là, il me dit, ok. Il me raconte qu'il a été brûlé au chalumeau par son père, que sa mère lui mettait du cannabis dans le biberon, des drogues dures dans le biberon, que son frère est mort devant lui dans une rixe dans le 91 vers les Tarterets. Qu'il a vu son grand frère mourir dans ses bras et qu'aujourd'hui il vit tout seul et que sa mère est décédée de la drogue et que son père est en prison. C'est-à-dire que ce gamin, il a 15 ans et il est en centre éducatif fermé parce qu'il a laissé pour mort, heureusement l'autre gamin n'est pas mort, dans une rixe, un autre gamin, il est dans un centre éducatif fermé. Ok, ce qu'il a fait, c'est inadmissible, c'est grave. Mais comment il grandit ce gamin? Comment il grandit? Avec quel repère? Avec quel repère? Quand on sait que la violence, on la reproduit souvent sociologiquement. Il n'y a pas de déterminisme à la violence, mais on la reproduit. Donc moi, mon discours pour lui, c'est qu'on est resté en contact. Aujourd'hui, il fait des études de comptabilité. Et tu vois, ça, c'est ma fierté.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Moundir. Moundir, et c'est un Égyptien. et un franco-égyptien, il est né en France, et il s'appelle Moundir, et ça, c'est un truc qui est pour moi important.
Tu parles de quelque chose où ça arrive souvent, dans les discussions qu'on a avec des gens qui ont été abusés,
ouais,
que malgré le trauma que ça génère, parfois, ils vont répéter ce que, oui, tu dis là, cette violence.
Ouais.
Tout à l'heure, on parlait de ta joie absolue d'avoir des enfants. Comment, quand tu as tellement étudié ça, comment, ouais, tu l'expliques?
C'est très dur déjà, Alexandre. C'est extrêmement dur. C'est un truc qui est complexe psychologiquement. Moi, je l'ai écrit dans le livre, je voulais pas me mettre en couple. Je voulais pas avoir d'enfants parce que j'avais, c'est peur ça, de reproduire cette violence-là. Jusqu'au jour où j'ai eu des petits-neveux. Moi, c'est un déclic, une délivrance. C'est la naissance de mon petit-neveu Yanis, en 2008, le fils de ma sœur. Et je lui ai tellement donné d'amour, et il m'a tellement donné d'amour, c'était mon petit protégé, mon petit chouchou, il faut pas que les autres neveux et nièces écoutent, mais c'était tellement mon petit chouchou, qu'en gros, je me suis dit, mais je suis fait pour ça, je suis fait pour ça. Et ça, c'est pour moi la plus belle des choses. Et surtout, il y a un truc très important, Alexandre, c'est que il n'y a pas de sociologie de la violence. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'habites dans les quartiers riches que tu vas plutôt violer ou vas plutôt agresser sexuellement tes enfants. C'est pas parce que t'habites dans un quartier ou une cité que tu vas taper ton enfant. C'est pas parce que t'habites dans une zone rurale que tu vas plutôt avoir des violences psychologiques. La violence, elle est partout.
Elle est partout.
Et elle est difforme. Et quand j'ai fait les dédicaces de mon livre dans le 17e arrondissement, par exemple, il y a une gamine qui est arrivée, qui était la fille d'un grand patron. Et dans ce, bien évidemment, je peux pas donner son nom. Et le frère de ce grand patron-là, elle habitait à Neuilly, avait abusé sexuellement d'elle. Et elle me racontait qu'elle avait plus de lien avec sa famille, hormis sa mère, et qu'elle me disait que mon livre lui avait permis de se dire qu'elle n'était pas coupable. On n'est jamais coupable de la violence qu'on subit. Un gamin de 4 ans, 5 ans ne peut pas être coupable de cette violence-là. Et le plus important, c'est de retirer la culpabilité. Et c'est un déclic psychologique qui est très complexe.
Dans le livre, on lit tout l'amour que tu as envers ta maman, ta volonté d'essayer de la sauver, ouais, la protéger, et de nouveau protéger quand elle se fait fracasser, ouais, par ton père, et que tu te mets au milieu des deux, que tu essayes à 4-5 ans que ça s'arrête, cette souffrance. Vous cachez cette violence, de nouveau, il faut bien, ouais, comprendre, parce qu'elle n'avait pas les papiers et que le risque pour toi était encore plus important qu'elle se fasse expulser. Qu'elle saigne et qu'elle a saigné un nombre de fois considérable. Ton père, à ce moment-là, lui vient d'une belle famille,
oui,
je vais pas dire grande famille, en tout cas une famille puissante.
Ah, très puissante.
Ouais. Très puissante en Algérie, et donc proche des généraux de, ouais, l'époque. Ce qui fait que vous avez une relation qui est totalement déséquilibrée entre le papa et la maman. Ta maman t'a quand même expliqué qu'il y a eu un moment d'amour dans, ouais, la rencontre entre les deux. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, ce qui toi t'a fait beaucoup de mal parce que très rapidement tu t'es dit mais c'est ma faute. Mmh. Ils auraient pu vivre heureux toute la vie et en fait à cause de moi, ma mère me faisait dérouiller tout le temps. C'est à mon avis un peu simpliste, mais en tout cas c'est comme ça les yeux que t'avais d'enfance
assez tôt. Quand on est enfant, ouais.
Exactement. Tu penses encore ça beaucoup plus tard. Tu penses que c'était juste un malade ton père. On est d'accord.
Je pense pas que ce soit un malade. Je pense que
c'est marrant. Tu penses pas que ce soit un malade quand il y a un mec qui bastonne et qui vous rend à chaque fois cette vie-là, tu, ouais, penses que c'est pas une maladie, ça?
Alors, moi, tu sais, je suis très névrosé. Moi, je me suis jamais considéré comme une victime, par exemple. Mais c'est un cheminement qui est très complexe. Mon père et ma mère ont eu un énorme coup de foudre. Tu parlais de la violence qu'a subie ma mère. Moi, mon seul espoir quand j'étais enfant, je voulais pas que ma mère meure avant
toi.
Je voulais pas voir ma mère mourir.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez dingue quand je raconte ça aujourd'hui, parce que j'avais 5 ans, 6 ans. Ouais. Moi, quand mon père tapait ma mère, je me jetais dans les genoux de mon père et je tapais et j'essayais de répondre. Et j'avoue qu'un corps d'un bébé de 5 ans ou d'un enfant de 5 ans à côté d'un adulte de 40 ans ou 35 ans, on fait pas la différence. Mais je ne voulais pas voir ma mère mourir. Et pour moi, ma mère était la chose la plus importante de ma vie. Et elle est toujours la chose la plus essentielle de ma vie. Je l'aime plus que tout. Je vais souvent manger avec elle, etc. Et en gros, c'était pour moi important de la protéger. Moi, j'étais la chose la plus importante de ma jeunesse, de mon enfance, c'était de la protéger. Quand mon père est parti, par exemple, ma mère avait travaillé, avait deux services dans la restauration. Elle faisait 6h, 14h, elle rentrait, elle nous préparait à manger, et elle faisait 18h, 2h du matin.
À deux endroits qui n'ont rien à voir.
À deux endroits, un à Paris,
et
un à Saint-Denis, et un à l'autre au Bourget, ouais, devant l'aéroport du Bourget. Donc elle traversait toute la région parisienne pour aller travailler. Et le soir, à 2h du matin, quand elle rentrait, quand j'étais pas très fatigué, je me mettais à la fenêtre de notre HLM au deuxième étage et je la regardais descendre de sa Ford Mondeo. J'attendais qu'elle rentre dans le bâtiment et dès qu'elle rentrait dans le bâtiment, j'attendais qu'elle monte l'escalier, j'entendais les talons, j'entendais tout, 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 tout. Et en fait, elle ouvrait la porte et je me mettais dans le lit et je me rendormais. Et elle me regardait, elle me dit, ah, il dort. Et voilà, ouais, c'est bon, il fait dodo, elle me faisait un bisou. Et elle croyait que je faisais dodo. Mais moi, je voulais juste qu'elle rentre à la maison. Donc, on a une relation très particulière. C'est la grande femme de ma vie. Mais concernant mon papa.
Oui, ça va être, on parle de Nassira ici, ouais, cette femme exceptionnelle. Ça va être compliqué quand même de créer une relation avec une femme après.
Oui et non.
Je vois que t'es un peu gêné. Il est un peu gêné.
Non, je suis pas gêné. C'est juste que c'est quelque chose de complexe. Parce que, en fait, dès que t'as une relation fusionnelle, mais ça, c'est arrivé, mais dès que t'as une relation fusionnelle avec quelqu'un qui, tu sais, Alexandre, c'est vraiment dur de, moi, j'ai passé des séjours à l'hôpital. J'ai failli partir. Ma mère a cru me voir partir. Mon père a tenté de m'enlever. Mes grands-parents. Oui.
C'est pas une petite belle famille.
Ouais,
c'est ton grand-père et ta grand-mère. Hein.
Mon grand-père et ma grand-mère ont tenté de m'enlever. En fait, ma mère, elle a failli me perdre plusieurs fois et moi, j'ai failli perdre ma mère plusieurs fois. Donc, tu ne mesures pas la chance de quelque chose tant que tu ne penses pas l'avoir perdu. Et moi, j'ai vu ma mère partir. Et ma mère m'a vu partir aussi. Donc, en fait, on a mesuré la chance de s'être perdu. C'est quelqu'un qui est méditerranéen, donc qui est très oppressant, qui est très présent, mais qui a un cœur immense. Et pour revenir à ta question, parce que toi et moi, parce que j'écoute tous tes podcasts, Alexandre, et c'est parfois pas simple avec tes invités de synthétiser ou en tout cas d'avoir un vrai chemin de fer, je veux revenir à ta question précédente sur ton papa, parce que les gens ont peut-être entendu, je considère pas qu'il est malade, c'est peut-être bizarre à entendre. Je considère qu'il a eu lui aussi beaucoup de souffrances et je considère qu'il est peut-être malade aux formes psychologiques, mais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a refait sa vie avec. Il a désormais 3 enfants. Il a beaucoup souffert d'avoir quitté l'Algérie pour venir en France. Il a beaucoup souffert de l'éloignement de sa famille. Et je considère. J'ai une phrase dans le livre qui est pour moi très importante et je suis vraiment très ému quand d'autres personnes me la ressortent sur les réseaux sociaux, comme si c'était une citation de quelqu'un d'important, ouais, alors que c'est pas du tout le cas.
Confucius.
Alors que parfois, quand je suis mélancolique et qu'on fait tout ça, un peu moins toi, peut-être Alexandre, mais on met une belle phrase sur Instagram en story avec une phrase, un jour j'irai atteindre les sommets de je sais plus quoi, Ma grande phrase, c'est j'ai pas attendu le pardon pour pardonner. Et j'ai pas attendu le pardon de mon père pour pardonner. Je l'ai jamais reçu. On en parlera peut-être. On s'est revus 17 ans après. Et voilà.
Tu l'as revu pour qu'il vienne te demander des places d'un maillot de Kylian Mbappé et des places pour un match de football. Tu sais s'il a lu ton livre?
Je ne sais pas. Je ne crois pas.
Tu crois pas?
Je l'ai même écrit. Tu veux même que je te dise un truc? Je l'ai écrit dans l'espoir qu'il le lise et qu'il réagisse.
J'espère bien.
Tu vois,
Pas réagi. Je me souviens ici, on a vu Gaël Faye, cet auteur, hein, parce qu'il a écrit un livre Petit Pays qui a été pris au concours des jeunes, plus de 3 ou 4 millions de ventes. Et il parle beaucoup de sa maman.
Ouais.
Il a une relation complexe avec sa maman. Et je lui posais la question, alors est-ce que ta maman, elle a lu? Et il me disait, comme toi, je ne sais pas.
Alors, ma maman, je sais.
Oui, ta maman, c'est évident.
Non,
c'est
ma maman, elle n'a pas pu le finir. Ma mère, elle n'a pas pu le finir.
Quand t'envoies cette tribune au Journal du Dimanche avec Gattegno à l'époque, tu le fais lire à ta maman?
Non. Non.
Je ne demande pas
l'accord à ma mère.
Tu penses qu'elle t'aurait donné ou pas?
Je ne suis pas sûr.
Ouais, je pense pas.
Ma mère, elle est... Tu sais, on est méditerranéens, nous, on cache les choses. On a toujours caché les choses.
Bah, tous les méditerranéens ne cachent pas les choses, quand même.
Oui, on est plus pudique. On est plus pudique. Voilà, c'est peut-être mieux. On est plus pudique et je lui ai juste annoncé quelques minutes ou quelques heures avant que ça sorte. Elle m'a dit, écoute, tu fais comme tu veux. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Elle m'a toujours dit, ma mère, tu fais comme tu le sens. Elle me pousse toujours, elle me donne beaucoup de conseils. Elle me pousse dans mes retranchements. Par exemple, quand j'ai rencontré mon père, elle m'a dit, écoute, il faut que tu parles avec lui, il faut que tu discutes avec lui, et voilà.
Quand tu dis, j'ai rencontré mon père, c'est quand tu l'as revu 17 ans après qu'il soit parti, quand tu avais 8-9 ans, sans donner d'adresse. Tu parlais tout à l'heure de ce livre, Pause pour une vie alignée. Je parle évidemment de nos blessures, parce que, excuse-moi, tu parlais d'Instagram. Moi, souvent, je dis, la vie Instagram est un énorme mensonge. On se met la meilleure version de nous-mêmes, on est bien apprêté, où on a l'air le plus intelligent possible et que notre vie n'a pas d'accro. Mm. La beauté de la vie, ça, c'est certaines limites, mais la beauté de la vie, c'est qu'il y a beaucoup d'accro.
Oui.
Des échecs, des défaites, des blessures. Quand on parle d'alignement, c'est à un moment ou à un autre, quand tu acceptes ces blessures, déjà pour toi, et potentiellement tu en parles. J'en parle en particulier pour les auditrices et les auditeurs qui ont pour la plupart des blessures.
Bien sûr.
Est-ce que pour toi c'est un message aussi, parce que là comme, encore une fois, si vous lisez ce livre Rêver sous les coups, les blessures sont majeures. Tu recommencerais tout de suite? Tu commençais plus tôt, tu penses, ou tu crois beaucoup au destin?
Ouais, je crois beaucoup au destin, je crois qu'aux choses, elles arrivent quand elles arrivent. Et je vais te raconter une autre anecdote, ma mélancolie, parce que je suis quelqu'un de très mélancolique. Ma mélancolie s'exprimait beaucoup dans une sorte de scène où le soir, à 2-3 heures du matin, j'écoutais de la musique raille, alors que je n'ai jamais grandi avec la musique raille, mais j'ai des souvenirs d'enfance de mon père, et j'ai des souvenirs de ce qu'il écoutait, etc. Et j'adorais ce ton de cette musique sentimentale qui revient beaucoup à la mode, d'ailleurs, aujourd'hui, avec des artistes modernes. Mais la musique raille, si tu veux, c'est des artistes très connus comme Cheb Hesni, Cheb Mami, Cheb Khaled, etc. Et j'écoutais ça, et j'avais les larmes aux yeux. Et pendant des années, je me suis dit, mais ça vient d'où? Et je sais d'où ça vient aujourd'hui. Ça vient de là. Ça vient de toutes ces musiques que j'ai entendues pendant l'enfance avec mon père. Et aujourd'hui, depuis la sortie de ce livre, je n'ai plus ce genre de moments. Enfin, je les ai très, 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 très peu. J'en ai quasiment plus. Et je me sens beaucoup mieux. C'est quelque chose qui est... En fait, je me
thérapie?
Suis... Non, non, non.
Pas de thérapie?
Non, pas de thérapie.
Jamais?
Jamais. Jamais vu un psy de ma vie.
Et pourquoi? Parce que tu penses que c'est... je pense que ça, c'est pas...
J'ai un peu peur, en fait.
D'accord.
J'ai un peu peur de...
Tu penses aller encore plus loin?
Mais faut surtout pas que les gens... Enfin, moi, je suis la pire publicité pour les psys, parce que tout le monde dans mon entourage me dit, mais depuis que j'ai vu un psy, je vais beaucoup mieux, je vais nani, j'ai nana. Moi, j'ai peur d'aller dans les bas-fonds de mes souvenirs.
Ouais, c'est ça. Voilà. Tu veux aller encore plus loin? Ouais. Je vois pas
parce
comment
que
tu peux
plus,
aller...
Je suis allé très loin dans le livre.
Très, très, très loin, quand même. Donc, mais en effet, la thérapie... peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Donc en effet, ce que tu dis, c'est que toi, tu as fait beaucoup de travail sur toi-même.
Ouais.
La preuve, c'est peut-être avec Géraldine, quand tu as écrit le livre, qui était une sorte de thérapie. Mais en effet, les gens...
Mais c'est important pour les gens qui lisent tes livres, qui vont lire ou qui ont lu Pause pour une vie alignée ou qui ont lu les autres livres et qui t'écoutent dans tes podcasts, de dire que c'est la pire des choses de vivre avec la culpabilité. En fait, le jour où on en parle, le jour où on se libère d'une quelconque blessure, une agression sexuelle, une agression psychologique, une agression physique, même quelqu'un qui nous rabaisse au quotidien au travail, quelqu'un qui a un mauvais comportement, ce qui peut s'assimiler à des violences psychologiques au travail, etc. Ou même l'emprise d'un frère, d'une sœur, d'un membre de la famille, etc. Le jour où on se libère de cette culpabilité-là, on se sent beaucoup, beaucoup mieux. Je me suis dit, au moment où j'ai révélé mon histoire, tu vas pouvoir peut-être créer des moments de bonheur à ces enfants-là. Et quand je me suis déplacé dans ces écoles, il y a un gamin qui m'a dit « J'aurais jamais pu penser que le mec qui interview Neymar et Mbappé ait vécu la même chose que moi. »
8 ans, ton papa, ton père, excuse-moi, j'ai du mal avec de dire ton père.
On peut tous être des pères, mais on ne peut pas tous être des papas. C'est ma phrase, souvent.
Ouais, t'as un autre punchline. Dans Instagram, on aura bientôt ça. Il essaie de t'enlever. Alors là, c'est un moment, t'as 8 ans. Tu es à Paris, il faut aller jusqu'à Marseille. Mmh. Ça tombe bien, Marseille, c'est la ville préférée de ta maman.
Ouais.
Il te fait un sketch incroyable. Ouais. T'as une magnifique voiture, van, vano, Mercedes, qui te prend. Et ta maman t'avait dit une chose essentielle, pas de bateau. Et donc toi, je crois que le terme que tu détestes le plus au monde, c'est le bateau, en fait.
Je déteste le bateau.
Mais tu détestes aussi être sur un bateau?
Je déteste être sur un bateau.
D'accord, donc ça,
mais ça, c'est lié à l'enfance. Ouais, c'est je le fais pour faire plaisir à des amis. Quand ils me disent, allez, on va faire une sortie en bateau. Je déteste ça. Je n'ai jamais fait de croisière de ma vie. Je n'en ferai jamais. Je ne prends pas de bateau.
Parce que ta maman avait expliqué, comprenait bien. Puisque l'idée potentielle de ta maman, c'est de dire, il y a un moment, une possibilité qu'on t'enlève, ou elle avait cette idée-là, ou qu'on t'amène en Algérie. La seule manière de faire pour pas vraiment inquiéter la PAF, la police aux frontières, c'est plutôt le bateau.
En fait, ce qui se passe, pour la faire, la raconter l'anecdote assez rapidement, en gros, après des coups assez intenses et une soirée de l'horreur, où ma sœur s'est battue avec mon père aussi, où moi j'ai pris beaucoup de coups, des voisins à Saint-Denis, parce qu'on peut parler aussi de solidarité. Moi, j'ai grandi dans le 10e arrondissement, très 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 jeune, à Paris, rue Saint-Vincent-de-Paul, à quelques centaines de mètres, même pas 50 mètres de l'hôpital Lariboisière. On dormait parfois dans le vestibule ou dans les escaliers du bâtiment. Des petites dames passaient en train du Burberry, nous regardaient et faisaient pfff, pfff, tu sais, c'est ce petit truc-là en disant, ah, comme d'habitude chez vous, hein. En clair, comme d'habitude chez vous, les Arabes ou tout ça, ça peut arriver. Ça arrivait souvent, alors que par exemple à Saint-Denis, au Franc-Moisin, dans ma cité HLM, où certes on a perdu en classe sociale pour les gens, on est passé du petit appartement parisien à la cité, ben en gros, en quelques jours, quelques semaines, mes voisins sont venus, et ont pris mon prix et ont dit non, vous voulez vous battre, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais nous, le gamin, on le laisse pas tout seul. Donc Nadir et Aïda, mes voisins, ont été exceptionnels. J'en parle beaucoup dans le livre.
Dans le livre, je parle de ces rencontres, des gens qui vont te tendre la main, qui vont te montrer une autre facette de la vie, de l'humanité. Et je te remercie de là aussi de les citer, de en parler, parce qu'ils n'ont pas fait ça pour ça. Ils n'ont pas fait pour que tu sois avec
un bouquin. Pas du
mais
tout.
C'est des vrais gentils, c'est une vraie famille. Et ça t'a montré que c'est faisable, une vraie famille.
Alors, si tu viens, Alexandre, à Saint-Denis, je t'invite chez Nadir Aïda, tu viens faire un apéro, prends ta journée de midi et demi à 3h du matin. C'est qu'en fait, tu vas même pas voir arriver la nourriture, les boissons, etc. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais on va parler des rencontres, et notamment des rencontres professionnelles, j'imagine.
Je pense que c'est...
Mais par exemple, il y a des gens qui ont été... Bah, oui, mais moi, le perso m'accompagne dans ma vie professionnelle. On peut en parler dans quelques minutes. Je passe un super moment d'ailleurs, mais je parle trop. Mais par exemple, j'ai toujours cherché dans mon travail des figures paternalistes.
Ce qui est assez logique. Voilà. Non, c'est pas fou, c'est logique.
Oui, non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai par exemple, à RMC BFM, j'en avais une. Aujourd'hui, dans ma vie actuelle, j'en ai une. Et je sais que cette personne-là, je serais prêt à...
Tu donnes les noms, parce que c'est chouette.
François Pesanti, RMC BFM. Et aujourd'hui, Pierre-Antoine Capeton.
Qui est le patron de Medawan, qui était ici il y a quelques semaines de ça.
Pierre-Antoine, je donnerais tout pour lui. Moi, je suis très fidèle, en amitié, en amour, professionnellement. J'ai passé 11 ans, 10 ans et demi à RMC BFM. Aujourd'hui, je suis très heureux, etc. Et ces failles-là, aussi, la fidélité, la loyauté, elles viennent des forces de l'enfance. Alors, on passe de faille à force. Ma mère m'a toujours dit, pour les proches, on reste fidèles. Nadir et Aïda ont été exceptionnels. Ils m'ont sauvé la vie quand j'étais enfant. C'était mes voisins. Ils étaient au troisième, j'étais au deuxième, dans la cité des Framboisins. Et en fait, ce qui se passe un jour, l'anecdote est très basique, c'est que Nadir et Aïda ont appelé mon oncle, le frère de ma mère, qui était un mec qui habitait à Lyon, qui était baraqué, qui avait un corps à 2 mètres. Il est arrivé, il en a mis une bonne, en tout cas psychologiquement, à mon père, et il l'a fait sortir de la maison. Et donc ma mère a dit que c'était plus possible de vivre dans ces conditions-là. Il est parti de la maison. Et 2-3 semaines après, il a essayé de redraguer ma mère, il a essayé de la reconquérir, il a essayé de me montrer aussi qu'il avait changé. Il m'a emmené au karting, etc. Et un jour, il voit que ça ne marche pas. Et un jour, il vient me chercher à l'école. Et donc, comme c'était mon père, il a le droit de me récupérer à l'école. Mais la directrice, Madame D, trouve bizarre que mon père, qui n'est jamais venu me chercher depuis tant d'années, vienne me chercher. Et on sort de l'école, il prétexte un vaccin que je devais faire. Il me met dans un formidable véhicule, un Viano Mercedes qui était magnifique, etc. Il y avait des bandes dessinées, parce que j'adorais lire dans la voiture. Il y avait des Haribo, des bonbons, etc. Et là, il me dit, on part à Marseille pour le week-end, ta mère nous rejoint. Elle me dit, elle nous rejoint le soir à Marseille. J'arrive le soir à Marseille, on fait 7 heures de route, il y a la musique à fond, on rigole, on s'arrête sur l'aire d'autoroute. On passe un moment exceptionnel.
Le meilleur moment de ma vie avec mon père. Avec ton papa.
Le meilleur moment de ma vie avec mon père qui est arrivé à 8 ans et demi. Ouais. Voilà. Et le premier moment, c'est quand il m'a empêché un bizutage dans la cité où un mec est venu me casser la gueule. Et il est venu me tirer de ce mec-là qui m'a cassé la gueule et il me dit, chez nous, dans notre famille, on se fait pas casser la gueule. C'est nous qui cassons la gueule. Donc voilà, ça, c'était le premier moment un peu de protection. Et le deuxième, c'est ce moment où il m'enlève, en fait, clairement. Et le soir, j'arrive.
Il t'enlève et c'est le meilleur moment.
Et on arrive à Marseille. On est devant le Quick de Marseille et on veut manger. Et là, ils nous disent non, on a fermé. Il arrive à les convaincre. Moi, je fais ma tête de chien battu pour récupérer des Giants. Donc là, on a à manger. Et là, il me dit, ta mère ne vient pas. Elle arrive demain, elle a raté le train. Là, du haut de mes 8 ans,
il y a un truc qui cloche.
Je me dis, c'est bizarre.
Il n'y a pas d'hôtel,
je dors dans la voiture, on dort dans la voiture. Il me dit, non, mais on part demain très tôt, on a le bateau. Et là, il dit, on a le bateau. Et c'était un peu le nom de code. Voilà, ouais. On a le bateau. Et là, je comprends, je commence à paniquer. Et en fait, le lendemain matin, il me dit, non, mais ta mère va pas prendre le train, elle va prendre l'avion pour nous rejoindre directement en Algérie. Et je comprends. Je comprends, je veux m'enfuir, j'ai 8 ans. On est sur la route. On est sur la route du bateau, on est dans l'entrée du port maritime de Marseille, il y a des centaines de voitures autour de nous. Je vois ce bateau Algérie Ferries et je commence à le voir comme une baleine, comme Moby Dick qui va m'avaler. On va pour rentrer dans le bateau, je vois une voiture de police qui est à droite, je veux crier et je n'y arrive pas. Les mots restent dans ma bouche, mon père commence à s'agacer et en fait je vois à l'arrière de cette voiture-là un policier me faire un petit signe du pouce.
Et là, tu sais que c'est bon.
Et non, là, je comprends pas encore, mais je lui ai dit, venez me sauver. J'ai des frissons quand j'en parle. Je vais partir. Tu vois, je vais plus revoir ma mère. C'est un moment qui est très douloureux. Tu vois, même encore aujourd'hui, quand j'en parle, c'est extrêmement difficile parce que je me dis, je vais partir en Algérie. Je vais plus voir mon frère, ma sœur, ma mère. Ma mère, c'est ma vie. Ouais. Je me rapproche du bateau Quand je me rapproche du bateau, je vois cette voiture de police qui se met en travers. Et l'un des policiers qui passe à côté, qui m'avait fait le signe, il me fait un autre signe du pouce, il me dit, t'inquiète pas. Et donc là, à ce moment-là, je vois mon père s'agacer. Je vois le policier lui dire, est-ce que vous auriez un livret de famille pour cet enfant et est-ce que vous auriez une autorisation parentale pour quitter le territoire?
Parce que dans certains pays du monde, tu ne peux pas voyager avec ton enfant dans un autre pays,
oui,
si tu n'as pas l'accord des deux parents.
Notamment la France.
Et la France.
À l'époque. Et donc, en gros, le policier lui dit, écoutez, vous n'avez pas l'autorisation de la maman. Il dit, mais je suis le père, je suis le tuteur légal. Il dit, oui, mais vous n'avez pas l'autorisation de la maman. Vous ne pouvez pas partir. Et en fait, ils nous ont ramenés au commissariat. Mon père a pété un câble, ils nous ont ramenés au commissariat. Et la première personne que je vois dans le commissariat, c'est ma mère.
Ouais.
Et là, tu vois, c'est un truc qui... Tu vois, quand je te parle de lien de fusion, c'est ma mère. Et en fait, je lui dis, mais maman, comment t'as fait? Et l'histoire est dingue parce que...
Saïda qui avait...
Ma directrice a tenté d'appeler ma mère. Elle a été en plein service, qui était 11h30 midi, donc mon père avait bien choisi le moment. Et en fait, au moment où on sortait de l'école, une voisine, Païda, une autre voisine, m'avait vu. Avait appelé ma mère sur son portable et avait tenté de la joindre une quinzaine de fois sur son portable et lui a dit, j'ai vu Mohamed avec son père, il se passe quelque chose. Et
donc là, ta maman qui était en situation irrégulière, ouais, se dit, je vais être obligé de me dévoiler. Et donc j'appelle, donc là elle
l'avocat.
Fait le process d'avocat,
ouais,
et qui lui va appeler évidemment la police et tout le process qui a suivi là-dessus.
L'aéroport de Roissy et Orly, les deux aéroports, ouais, sont prévenus. Parce qu'il pensait que j'étais parti le soir.
Ouais, ouais.
En fait, il remarque que j'étais pas parti et en fait, l'avocat fait bloquer le port de Marseille.
Alors là, on parlait tout à l'heure de cette communauté, cette capacité d'aider ton prochain,
ouais,
que tu évoquais au Framboisin. Cette personne, cette voisine qui te voit, qui se dit un truc qui est pas normal, qui va pas, elle va pas se dire, tiens, on verra demain. Tu parlais,
non,
tout à l'heure des gens qui ne s'excuseront toute leur vie ou s'en voudront toute leur vie. Cette voisine qui s'appelle
Fatira.
Merci Fatira, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de chances que tu sois ici,
ouais,
si elle n'avait pas vu ça et si elle n'avait pas fait un grand signe de main.
Elle a appelé 15 fois ma mère.
Et voilà, et c'est pas une fois. Hein.
Ouais. Il y a une phrase que je répète souvent, tu sais, il y a combien de centimètres entre deux appartements? C'est terrible dans les bâtiments, la, ouais, plupart des, ouais, bâtiments français. Il y a 27 centimètres. C'est-à-dire qu'un bruit, on l'entend. Et je comprends les gens qui ont peur, je comprends totalement. Mais il y a un truc qui est basique qui s'appelle le 17. Et je dis souvent que... Un voisin qui reçoit une visite de la police alors qu'il ne se passe rien, il sera agacé sur le coup. Mais le lendemain, Alexandre, si ça t'arrive, tu te diras, j'ai la chance d'avoir des voisins responsables et d'avoir des voisins qui me protègent ou qui essaient de protéger les gens qui vivent dans le bâtiment. Tu sais, il y a une phrase de Kennedy, Alexandre, ouais, ça va te plaire. J'aime bien les citations, mais on ne tape pas la culture, mais Kennedy, c'est pas mal, qui disait « Arrêtez de toujours penser à ce que l'État peut faire pour vous. Dites-vous ce que vous pouvez faire aussi pour la communauté, la société et l'État. »
De toute façon, c'est un sujet, tu as raison, qu'on aborde souvent et qui est un sujet... Tu ne veux pas attendre tout l'État.
Oui.
Moi, je suis quelqu'un qui pense que l'État, est, de toute façon, plus que nécessaire, est important et doit réguler beaucoup de choses. Mais la société civile a un rôle considérable,
oui,
c'est-à-dire nous tous et nous toutes, de pouvoir
dans
parfois agir dans le quotidien. On parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Un point aussi qui a été important pour toi quand tu as parlé... rapidement aussi, et on le comprendra pour ceux qui te connaissent aujourd'hui avec ta casquette de journaliste, au préalable, tu étais journaliste, tu as commencé en tant que journaliste sportif,
oui,
avec fan absolu de football. Et donc là, ça n'a pas étonné les gens. Donc en 2021, on te retrouve à organiser un tournoi des défenseurs de l'enfance. Et donc là, c'est fait justement avec la Confédération Nationale, APE,
des associations de protection de l'enfance,
donc NAP. dont tu es le parrain. Donc là maintenant, tu en as fait plusieurs éditions, tu as fait ça dans des endroits qui sont mythiques,
ouais,
parce que tu as terminé au Stade Vélodrome, ce qui devait certainement faire très plaisir. T'es vraiment venu, je suppose.
Oui, très plaisir, elle était là.
Et donc tu as fait Stade de France, Parc des Princes. Tu peux nous expliquer...
Je peux te donner le lieu en exclusivité.
Oh, génial.
Si tu veux. Non, le prochain, je l'ai appris il y a quelques heures.
Ah,
voilà. Le prochain aura lieu à Lille, le 17 novembre 2024.
Pierre-Mauroy, donc.
Oui, Pierre-Mauroy, au Stade Pierre-Mauroy, si tout va bien.
Très beau stade.
C'est un très beau stade, on est en train de finaliser les accords et c'est un moment exceptionnel.
Et merci aussi de partager ça dans les,
ouais,
régions.
Ouais,
c'est très important, que ce soit pas uniquement...
Ouais.
Et j'adore le Parc des Princes, qui est un des plus beaux stades qui existent en France. Mais merci d'aller à Marseille, à Lyon. Je suis sûr que tu seras à Décines bientôt. Donc à Lyon,
ouais,
je pense que tu vas continuer à tourner chaque année. Tu expliques aux auditrices et aux auditeurs le concept.
Ouais. C'est très simple. C'est que, en fait, quand mon père est parti, quand il a quitté la maison, le premier souvenir que j'ai heureux, c'est un match, alors que je ne suis pas supporter du PSG à la base, c'est un match entre le Paris Saint-Germain et Ajaccio. Une victoire 5-1 du PSG contre Ajaccio. Et j'étais dans le stade, dans la tribune, et je me vois être là, et j'ai un moment de joie. En fait, j'ai un moment enfantin. J'ai un moment de d'apaisement. Je fais une pause. Je suis aligné avec moi-même et je vis un moment de l'enfant qui a 9 ans, 9-10 ans. Et donc, c'est un moment tellement exceptionnel que je me suis dit, au moment où j'ai révélé mon histoire, tu vas pouvoir peut-être créer des moments de bonheur à ces enfants-là. Et quand je me suis déplacé dans ces écoles, il y a un gamin qui m'a dit, j'aurais jamais pu penser que le mec qui interview Neymar et Mbappé ait vécu la même chose que moi.
Bien sûr.
Puisse avoir vécu la même chose que moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce que à chaque fois que je vais dans un établissement, un centre éducatif fermé, un établissement de la protection de l'enfance, de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, à chaque fois, les gamins me demandent de jouer au foot avec eux. Et à chaque fois, on fait des parties de foot qui durent 2-3 heures. Et à chaque fois, je passe un moment exceptionnel. Donc, je me suis dit, comment je vais faire? Et là, je me suis dit, le football, c'est un moment de bonheur, c'est un moment universel, c'est un moment qui fédère. On va leur organiser un grand tournoi de protection de l'enfance avec toute la Ligue 1. Et surtout, on va leur créer un week-end de rêve. Un week-end de rêve, c'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter à un tournoi. Si tu veux, la première édition, pour faire court, la première édition, ils ont été voir France-Nouvelle-Zélande en rugby. Victoire de la France au Stade de France, moment magique. Le lendemain, ils ont joué au Stade de France. La deuxième édition, Parc des Princes, ils ont passé la journée le samedi au jardin d'acclimatation avec l'aide exceptionnelle d'Antoine Arnaud et du groupe LVMH qui nous ont permis de quasiment privatiser le jardin d'acclimatation pour ces 300 personnes et ces 300 enfants et cette centaine d'éducateurs. Le soir, ils ont vu le nouveau jouer avec Jamel Debbouze. Le lendemain, ils ont joué au Parc des Princes. Et là, cette année, au Vélodrome, ils ont joué au Vélodrome le dimanche et le samedi, ils ont été visiter la grotte Cosquer. Et ils ont été voir un film le samedi soir, D'Artagnan, Les Trois Mousquetaires. Et ils ont vécu un week-end de rêve. Et là, chaque année, on se dit comment leur permettre de vivre un samedi de rêve et un dimanche de folie sur un terrain de foot. Et si tu veux, ce qui est pour moi le plus important, c'est de se dire on est à environ 250 enfants accompagnés par tournoi, une centaine d'éducateurs, et leur vie, elle change. Et les gens qui assistent au tournoi vivent des moments exceptionnels. Et quand tu as des enfants qui te disent à la fin de la journée est-ce que vous voulez être mon papa Mohamed, ou est-ce que vous voulez m'adopter, des trucs comme ça qui nous donnent envie de pleurer tout d'abord. Mais il faut jamais pleurer devant un enfant qui est victime de violence, et surtout de se dire de continuer le combat. Et en un mot, pourquoi je le fais, le meilleur résumé de tout ça, c'est un gamin qui s'appelle Youssef, qui est originaire de Strasbourg, de l'Elzo, qui est la cité la plus chaude de Strasbourg, qui est venu à la première édition. Il a perdu le tournoi en finale. Et il a dit, c'est quoi ce mec-là? Il avait 14 ans et demi. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ce mec-là avec le téléphone là? Et je lui dis, bah, c'est un community manager, Youssef. Il met en avant le tournoi sur les réseaux sociaux et sur le digital. Ah, c'est intéressant. Et il est revenu à la troisième édition. Il a 17 ans et demi désormais. Il est devenu entraîneur de son équipe de protection de l'enfance. Et surtout, il a un contrat d'alternance dans la plus grande société d'école de community manager à Strasbourg. Il a un CDI qui l'attend à la sortie. Et il est devenu community manager des associations de protection de l'enfance. Génial. De Strasbourg. Et ce gamin, il a gagné le tournoi de la troisième édition.
Eh ben, c'est des belles histoires. Hein. Merci d'organiser ces événements. Merci aussi de communiquer. Souvent, les gens disent... pourquoi la communication quand c'est fait? Est-ce qu'il y a nécessité de communiquer autour de ces événements? La réponse est oui. Oui, parce qu'il faut montrer que c'est faisable. Il faut montrer que d'autres personnes peuvent aussi le faire, à des petits niveaux, à des plus grands niveaux. Je pense que c'est très important. Je sais que tu es un expert de la communication, mais c'est continuer à être important d'en parler.
Mais tu sais pourquoi je communique, Alexandre? Parce que je galère à le financer, ce tournoi. Donc si des gens, grands CEO nous écoutent, c'est un enfer de financer ce tournoi. C'est un tournoi qui coûte pas très cher, hein, qui coûte à Paris, les deux éditions à Paris ont coûté environ 150 000 euros. Celle à Marseille, puisque ça coûtait beaucoup plus cher, parce qu'on a dû dépasser les gens, a coûté 230 000 euros. C'est défiscalisé à hauteur de 66% et je galère pourtant à le financer. Voilà. C'est le seul point noir de tout ça.
Et parlons des entreprises qui t'ont aidé jusqu'à maintenant.
À Paris et les deux éditions à Paris. Donc, on a eu de la BNP, on a la Ligue de football professionnel, qui est le premier partenaire, la LFP. D'accord. Notamment, parce que Vincent Labrune, dès le départ, m'a suivi, le patron de la Ligue de football professionnel, et qui est sans doute le premier partenaire privé de ce tournoi. Il y a l'État qui est le deuxième partenaire privé, et ensuite des galères, et là on revient, il y a la Fondation Media One, la Fondation Dessine-moi une enfance, d'Alexandra Capton, il y a BNP, CMA-CGM à Marseille qui nous accompagnait, et surtout la SNCF.
Et donc voilà. Donc là,
et Accor qui Maud Bailly, qui nous prend tous les enfants que je faut, il faut citer Maud Bailly.
Ce qui en Maud et
j'adore Maud Bailly.
Voilà, et Sébastien Bazin qui était ici, qui est voilà le patron de d'Accor. Merci Maud, merci Sébastien, merci tous les gens qui sont qui voilà. Et mais c'est pas suffisant. Donc c'est le message qu'on donne ici, ce n'est pas suffisant. Tout à l'heure, je parlais que ton papa a réapparu un moment.
Oui.
17 ans après. Ce moment est unique parce que quand je t'entends et comment tu parles de ce moment-là, t'espères en fait. Tu le vois, il est en face de toi, et dans ta tête, deux secondes, tout peut changer. C'est-à-dire, s'il avait fait bien son job à ce moment-là, tu lui aurais pardonné.
Pardonner, oui. L'accepter dans ma vie, non. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que le mot pardon, je l'ai un peu pris comme un... alors que pas du tout. Pardonner, oui. L'accepter parce qu'il voulait être accepté dans ma vie, non. C'est une certitude.
C'est fini.
C'était fini. Mais il y a une
folie. Tu penses qu'il aurait... Parce qu'il a très mal joué le coup.
Ouais.
Tu sens qu'il n'avait pas changé, qu'il était intéressé par ta visibilité, par ce que tu pouvais lui donner. Tu te rendais que c'était plutôt à toi de lui donner des choses, alors que toi, t'attendais qu'il t'offre quelque chose qu'il t'a jamais offert.
Ouais.
Mais ça, tu penses qu'il avait bien joué? Tu es sûr que moi...
Non, je ne pense pas. Je pense pas qu'il l'avait imaginé. Pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent, là aussi, c'est une soirée absolument dingue. Pour la faire très courte, je l'ai écrit dans le livre. Je présentais une petite émission qui était regardée par une cinquantaine de milliers de téléspectateurs. Ce soir-là, je sors, mon téléphone brûle là aussi parce qu'il y a un gamin qui était fan de moi, qui voulait être journaliste, qui a fait une tentative de suicide. Donc j'appelle Magali Bonnefia, la directrice de l'Institut Européen de Journalisme.
Que j'ai
étudié dans cette école-là. Et en fait, je lui dis, Magali, il y a un gamin qui, je pense, est en train de faire une tentative de suicide. Il faut vite qu'on trouve les coordonnées de ses parents et qu'on les appelle. Et là, elle me dit, Mohamed, tu as raison, ce gamin a des petits problèmes psychologiques, il est accompagné. Ses parents sont des gens très, très riches, qui travaillent beaucoup, qui vivent entre Paris et Londres, et on s'en occupe. Elle me rappelle 10 minutes après, elle me dit, au moment où j'ai raccroché avec toi, Bruce Toussaint m'a appelé en même temps, le présentateur de télé. Et en fait, les deux, on a harcelé notre directrice pour qu'on puisse avoir des nouvelles de cet enfant. Il se trouve que cet enfant avait fait une tentative de suicide, je vais pas donner les détails, mais il a été sauvé dans des situations assez particulières par les pompiers, il a été emmené à Bichat. Et donc à ce moment-là, moi, Magali Bonavia me dit, Mohamed, il y a plus rien à faire, ça y est, entre les mains des pompiers, part. Donc il est 21h45, 21h50, je suis resté 1h15 au travail, en train de gérer cette affaire, comme Bruce Toussaint, qui a ce soir-là été aussi exceptionnel. Et je tombe nez à nez avec mon père. Donc t'imagines déjà mon état de santé, mon état physique.
Ouais.
Est-ce que t'as un gamin, t'as lu un message sur Twitter, Instagram, t'as 400 messages.
Et ton père t'avait pas prévenu qu'il venait?
Non. J'avais eu une chance, c'est qu'un membre de la famille de mon père, dont je ne peux pas dévoiler le nom, m'avait envoyé quelques photos de mon père tout au long de ces années-là, en mode de l'évolution de sa vie, etc., sa vie physique. Donc je le reconnais tout de suite.
T'as quelqu'un quand même qui...
J'ai un peu une taupe, ouais.
T'as une taupe, là.
Ouais, j'ai une taupe. D'accord. J'ai une taupe qui dans la famille paternelle, qui me donnait quelques infos, qui me donnait des photos.
C'est pas
de mon
ton grand-père, ça c'est sûr.
Ah non, c'est pas mon grand-père, même si par cette taupe-là, on va dire, ce membre de cette famille, j'ai appris que mon grand-père a beaucoup regretté à la fin de sa vie son attitude envers moi. Je peux pas me... Mais tu vois, on parlait de destin. Mon grand-père est mort en 2017. Mon grand-père s'appelait Mohamed Bouafsi. Quand tu reçois sur Google le matin, à 7h du matin, Mohamed Bouafsi est mort. En fait, c'est que mon grand-père est mort. Ouais. Je suis en train de rêver, en fait. C'est l'alerte Google, c'est que mon grand-père était décédé. Et la chose incroyable, c'est que RMC était à Oradour-sur-Glane, donc dans le 15e arrondissement. Mon grand-père est mort à l'hôpital Pompidou. Je passais le soir précédent et j'avais senti une vibes différente, etc. Donc c'est des moments qui sont assez particuliers. Quand je reviens au retour avec mon père, les premiers mots qu'il me lâche devant RMC, c'est une surprise. Ces trois mots-là m'ont marqué. Et je me rappelle de ma phrase, tu peux ressortir mon livre, hein, je n'ai pas lu mon livre depuis quelques années. Ma phrase, c'est non, ça, c'est pas une surprise. Une surprise, c'est quand ton père revient d'un voyage professionnel à Londres ou à New York et qu'il revient avec un cadeau et que le voyage aurait dû durer 10 jours et revient au bout d'une semaine. Là, ce que tu es en train de faire, ça s'appelle un choc. Donc, j'ai annulé un dîner avec quelqu'un d'important. Je l'ai emmené manger au Murat. Et il a passé la soirée à me parler de ses enfants, de est-ce que je peux avoir des places pour le concert de DJ Snake qui est mon meilleur ami, est-ce que je peux avoir des places pour aller au Parc des Princes, est-ce que je peux accorder une interview à un grand journal algérien qui s'appelle Al Watan. Et à ce moment-là, à la fin du dîner, il y a Noël Le Graët qui arrive, le président de la fédération, l'ancien président de la Fédération Française de Football, qui dit ah ça va, tu vas bien Mohamed, etc. Je lui dis oui, il me dit tu me présentes pas ton ami, et mon père dit je suis pas son ami, je suis son père. Donc déjà j'ai un premier coup de poignard. Et là, il dit, mais votre fils est bienveillant, il est brillant, formidable.
Il a été bien éduqué.
Il a de belles valeurs. Vous lui avez donné des valeurs exceptionnelles. Et là, mon père dit juste ces trois mots. Oui, je sais. Yeah. Et là, c'est... Là, c'est un tsunami dans ma tête. Ouais. Je me dis, mec, t'as jamais été là pour les méningites que j'ai eues. T'as jamais été là pour mes moments où quelqu'un m'a brisé le cœur. T'as jamais été là le jour où j'avais des mauvais devoirs. T'as jamais été là pour me faire un devoir de maths. T'as jamais été là pour m'accompagner en vacances. Et là, tu dis, oui, je sais. Et on s'est dit au revoir sur ce perron du restaurant Murat qui est connu dans le 16e arrondissement. Et je suis rentré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai pris deux trucs de Lexomil. Et ça m'a renvoyé à ce que le gamin avait fait plusieurs heures auparavant. Donc j'ai réduit un peu le Lexomil, le médicament, et je me suis endormi.
J'avais eu ici, il y a quelques temps de ça, une entrepreneur qui est journaliste aussi, maintenant Audrey Tcherkov. Et elle me disait ça, je vais la citer. Quand on pardonne aux gens qui nous ont fait mal, ça nous aide surtout nous-mêmes. Plus que les gens à qui on pardonne, parce que ça nous rend beaucoup plus léger. C'est finalement la seule manière de réussir à avancer. Tu partages cette avis-là ?
Totalement. Elle a entièrement raison. Et je peux allonger cette phrase-là en rajoutant les conseils. Souvent, quand on donne un conseil à quelqu'un, c'est un conseil qu'on veut se donner à soi-même, mais on n'a pas le courage de l'appliquer. Souvent, Alexandre, j'ai donné cette phrase à deux, trois personnes. Ça leur a changé leur regard sur les conseils qu'ils donnent aux gens.
Au collège, ta professeure, Madame Douré, dit à ta maman que tu as du potentiel, que ce serait dommage que tu restes à étudier à Saint-Denis. À ce moment-là, ta maman te place... Écoutez bien, à Notre-Dame de Grâce de Passy. Alors, comment t'arrives là? C'est que ta maman qui travaille tellement a trouvé un job même de gérante d'un restaurant, le Kennedy, qui est connu. Pourquoi il est connu? Parce que c'est tout près des Radio France. Ouais. Vous allez comprendre le destin, auditrice et auditeur. Et à un moment ou à un autre où ce destin se met en place, là, tu vas te retrouver comme t'aimais beaucoup, passer du temps avec ta maman. Et ce que tu te souviens de ton Paris-Athènes, c'était son premier bar qui était là dans le 10e arrondissement de Paris. Et là, comment tu te sens dans ces changements d'environnement? Tu n'as pas les codes? Comment ça se passe? Ton premier jour est génial. Hein. D'ailleurs, raconte ton premier jour parce que ta maman, évidemment, veut te faire arriver
en costume,
en BG, hein, le beau gosse. Et comment ça se passe?
Alors, en fait, c'est très simple. C'est qu'en CM2, pour la rentrée scolaire, Nadir m'avait fait une blague et il m'avait dit il faut arriver en costume, etc. Et je m'étais retrouvé en CM2 dans l'école élémentaire de René Descartes à Saint-Denis, dans ma cité, le seul arrivé en costume. Donc, je me suis fait brûler par tout le monde, etc. Et en fin de CM2, la directrice de l'école, René Descartes, dit à ma mère, votre fils a un énorme potentiel, il peut faire de belles choses, mais elle dit, malheureusement, je vous déconseille de le laisser ici. Alors là, avec le recul, cette phrase, elle fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Parce que aujourd'hui, moi qui suis très attaché au sujet d'éducation, je me dis c'est terrible parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le collège, en fait, qui est juste à côté de l'école, à Saint-Denis, n'est pas capable de me donner un support éducatif ou pédagogique pour atteindre mes ambitions. Accompagné à ça, t'ajoutes à ça que dans le quartier, il y avait quand même des petites bagarres, des petites embrouilles, des situations difficiles de délinquance, avec un grand frère qui, lui, essayait de me protéger, etc. Et donc, ma mère dit, non, moi, je vais prendre un travail dans le 16e arrondissement et je vais t'emmener au collège dans le 16e. Et donc, l'anecdote que tu racontes, c'est que j'arrive au collège et j'ai pas les codes, j'ai pas les habits. C'est-à-dire que tout le monde arrive en costume. Moi, j'arrive ce jour-là comme par exemple sur vêtements. Le lendemain, j'arrive en costume. Ils sont passés en jean, etc. Donc, j'ai pas les codes. Et c'était quelque chose d'assez compliqué de passer de la cité, du quartier avec des valeurs de solidarité dingue, mais une mixité absolument dingue.
Magnifique.
Et le 16e arrondissement, rue Raynouard.
Une uniformité.
Uniformité. Et voilà, les fils d'ambassadeurs, les fils de diplomates et tous les mêmes.
Donc, énormément de chance pour toi. Ouais. Et c'est ce que tu dis ici, je t'entends parfaitement, je suis tellement d'accord avec toi. C'est qu'il y a un moment ou un autre où quand on parle de réplication, là, on va rentrer sur ce modèle-là où si tu vas dans ces écoles-là, il y a plus de chances que tu fasses, et c'est venu même te directrice, ou que tu aies la trajectoire étudiante ou scolaire que tu peux imaginer, qui sera certainement la meilleure pour toi. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument travailler. Il n'y a pas aujourd'hui de vraie méritocratie républicaine si quand tu n'es pas dans les endroits qui permettent à ces jeunes-là de performer.
C'est beaucoup plus dur.
C'est très 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 compliqué. D'ailleurs, j'ai monté, et tu le sais, une organisation qui s'appelle Infinite, qui permet à tout jeune brillant, les Mohamed Bouefsi de l'époque, d'aller faire les meilleures études qu'ils méritent de faire. Et ça, c'est très important.
Je rajoute juste un élément. Pour moi, c'est tout aussi difficile de s'appeler Mohamed et d'habiter Saint-Denis pour avoir ces ouvertures-là que de s'appeler Axel et de vivre à Chauny ou à Noyon, en Picardie, au fin fond de la Picardie.
Merci de le préciser. D'ailleurs, Infinite, tu le sais, travaille sur les milieux populaires. On ne parle pas uniquement de quartiers populaires. Je suis d'accord avec toi. Quand tu es éloigné des centres de décision, le problème qu'on a en France, c'est que beaucoup de centres de décision sont à Paris. Et donc, c'est vrai que du moment que tu n'habites pas Paris et que tu es loin de ces projets-là, merci de le préciser. Et ici, on a vu un ancien invité du podcast qui est l'entrepreneur et réalisateur Stéphane de Freitas, que tu connais certainement. Il était passé d'Aubervilliers à Boulogne-Billancourt. C'est un peu différent, toi, mais c'est très similaire. Il nous avait raconté qu'il avait dû apprendre les codes. Il était arrivé plutôt, lui, en jogging au départ, en parlant avec son phrasé de l'époque. Il s'était rendu compte qu'il avait dû totalement réapprendre une langue, en fait, donc pour être accepté.
Et moi, j'arrive post-attentat du 11 septembre au collège. Donc, tu vois,
Tu cumules, c'est ça que tu
dis ? Pas loin, mais j'ai 11 ans. J'arrive au collège en 6e à 11 ans. On est en 2002. C'est-à-dire qu'on est post 11 septembre 2001. Et je vois aussi le regard sur mes origines, mon prénom.
Ta couleur de peau.
On passe de Mohamed Couscous, qui est très mignon, hein, qui est très drôle, hein, Mohamed Couscous, quand il pète, il fait de la mousse, à t'as un prénom terroriste, etc., dès la plus tendre enfance. Ouais. D'ailleurs, il y a une anecdote
de combat.
La bagarre que je raconte dans le livre. En fait, dès la 6e, moi, j'habitais Saint-Denis. Donc, en gros, je venais tous les jours avec un cartable Ferrari qui était très, très rouge, et qui était très lourd, et je me portais dans le dos, etc. Et parce qu'il y avait tous les livres, parce que ma mère rigolait pas, je partageais pas un livre avec un autre élève, il fallait que j'aie mon livre et que j'oublie pas mon livre. Ouais. Et donc, j'avais mon livre, mon cahier, mon cartable qui était plein, pardon. Et alors que les autres élèves qui habitaient dans le 16e aller manger chez eux. Ils étaient pas demi-pensionnaires comme moi. Et donc, en gros, un jour, l'école Notre-Dame-de-Grâce de Passy, qui a été rachetée depuis par Saint-Jean de Passy, il y a une pente. Et il se trouve que deux gamins viennent assez riches de cadres, de familles bien, 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 bien élevées, en plus dans la société française, viennent me pousser par derrière. Je tombe, je m'explose la tête, le cartable me tombe dessus. En plus, quand mon père est parti, j'ai déclenché une petite boulimie. Donc, j'étais un peu fort.
Une grosse boulimie.
Une grosse boulimie. J'essaie de réduire un peu fort. Très fort même. J'étais assez enrobé. Donc, je tombe, je roule et je raconte dans le livre comme Boo dans Dragon Ball Z, quoi. Et je tombe et je fais boum, boum, boum. Et je tombe et je m'explose la tête contre le portail du collège. Et après, il se trouve que là, le mec de quartier, ou même juste la réaction d'un petit ado, elle sort et j'attrape les deux, et enfin un des deux, et je me bagarre, et j'avoue que je me bagarre à l'époque plutôt bien, et je lui fais un peu de mal, mais attention, je vais pas casser la tête, il est rentré chez lui.
T'étais en sixième, c'est pas
j'étais en sixième, hein, c'est pas une rixe de, à coup de couteau. Et donc, il se trouve que lui, il rentre chez lui, le lendemain, des gendarmes viennent me chercher à l'école, j'entends la directrice de l'époque me dire, j'aurais jamais dû prendre un mec du 93, j'aurais jamais dû prendre un mec du 9-3, vous êtes tous les mêmes, etc. Les mêmes phrases qu'on entend souvent, malheureusement. Et en fait, je passe rue de la Faisanderie, je suis chez la police, et je leur montre mon cahier de texte avec toutes les insultes que je recevais par jour, les messages que je recevais sur un petit téléphone. Et en fait, ils me disent, mais c'est vous qui subissez un harcèlement, c'est pas ce gamin-là qui a juste eu un petit peu l'arcade ouverte et un peu la bouche ouverte. Et en fait, on est reparti, je leur ai demandé une seule chose, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez porter plainte contre ce gamin? Je leur ai dit, non, je porterai pas plainte contre ce gamin. En revanche, je voudrais que vous me rameniez dans la classe et vous le sortiez, ce gamin, et que vous fassiez la même chose que vous m'avez fait vivre hier. Et que vous alliez voir aussi la directrice pour lui dire que j'ai été la victime dans ça. Et pendant la 5e, la 4e et la 3e, j'ai jamais eu d'autres soucis avec la directrice.
Ce qui se passe aussi, c'est que ce gamin, t'as compris aussi qu'il était lui aussi
Abandonné.
Abandonné. Ça n'excuse certainement pas.
Abandonné par son père.
Par son papa.
Et je l'ai su quelques années après, abandonné par son père et élevé par une mère toute seule. Donc, lui, en revanche, je lui ai totalement pardonné.
Il t'a recontacté depuis?
Oui, on s'est recontacté sur Facebook. Voilà, on a reparlé sur Facebook. Il m'a dit qu'il regrettait, je lui ai dit que je regrettais aussi. Et aujourd'hui, on se parle une fois par an, quoi. Voilà.
Est-ce que t'as ressenti, c'est un point important, tu l'as un peu expliqué quand tu vois cette directrice qui te dit des mots insupportables, écoutés, ignobles, et qui mériterait que ces directrices-là soient virées, sur tes origines, sur ton prénom. Est-ce que tu l'as... Tu fais partie des gens qui sont, à part ce moment-là, qui sont passés à peu près à travers les gouttes?
Je suis passé à travers les gouttes et j'ai suffisamment de failles pour en rajouter d'autres à mon évolution. Je raconte qu'il y a eu une anecdote que j'ai vécue, qui est pour moi... une forme de petit racisme primaire et je lui en ai pas voulu sur le moment et je ne lui en veux toujours pas. Et surtout, ça m'a forgé. Je raconte qu'après un stage à Radio France, puisque ma mère, tu l'as dit, Alexandre avait la gérance du bar Le Kennedy.
À côté.
C'était à 200 mètres. Quand tu parles de changement de monde, je me retrouve à croiser Bernard Tapie, à manger la table d'à côté de Bernard Tapie. Ouais. Je me retrouve avec les plus grands journalistes et les plus grands directeurs de Radio France qui viennent manger l'entrecôte et la bavette d'Aloyo chez ma mère. Bernard Tapie, à la fin, je mangeais à côté de lui. Il me passait le sel et je rigolais avec lui. Et avec son fils Stéphane. Et donc, un jour, un très, très grand patron de Radio France, qui est aujourd'hui parti, me dit « C'est formidable, ton stage de 2 mois s'est très bien passé. Je pense que tu peux obtenir un CDD. J'ai juste un problème, c'est que ton prénom, ça marche pas. » Je lui dis « Comment ça ?» Il me dit « Le prénom Mohamed, ça donne l'impression que c'est Momo. Et Momo, c'est le vendeur de vaches qui rient à 4 euros, 4,50 euros de l'épicerie d'en bas. » Et il me dit « Est-ce que tu as pensé, parce que tu es très bon à la radio, est-ce que tu as pensé à t'appeler Maxime ou Léo ?» Voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a 2 solutions. Soit le petit gamin de 11 ans revient et je pars en insulte.
Tu mets une droite.
Je retourne le bureau. Soit je me dis, non, je changerai pas de prénom. Et vous verrez. Et je suis sorti du bureau en lui disant, dans moins d'un an, je serai à la radio, en direct, dans une autre grande radio française. Et il me dit, on verra. Et 10 mois après, j'étais à la radio sur RMC.
C'était quoi ton rêve à ce moment-là?
Je voulais être footballeur professionnel.
Tu jouais bien.
Je jouais plutôt bien. Et pour pas faire le coup des gens qui disent ouais, je jouais tellement bien, j'ai été en centre de formation, j'ai eu l'appendicite. Non, j'étais Alexandre, je vais être sincère avec toi, j'étais gardien de but. Voilà. J'étais gardien de but,
Et pourtant tu mesures pas 2 mètres, c'est un peu compliqué,
j'étais gardien de but, mais j'étais un très très bon gardien de but. Et d'ailleurs, il m'est arrivé une anecdote assez particulière. Et en fait, le centre de préformation,
je sais pas encore.
Le centre de, un jour, je fais un tournoi exceptionnel à Saint-Denis, et je suis gardien et j'arrête tous les ballons, j'arrête tous les pénalties. Et à ce moment-là, dans les coursives du stade, il y a un recruteur du PSG. Voilà. Il y a un recruteur du PSG qui est là et qui vient me voir et qui me dit, vous avez fait un tournoi exceptionnel, est-ce que je peux avoir les coordonnées de votre mère? Et donc, il me dit, est-ce qu'on peut organiser un rendez-vous? Et c'était le patron du centre de préformation du PSG. Et il est venu à la maison. Il est venu déjeuner à la maison et il a dit à ma mère, voilà madame, votre fils est très 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 bon au foot. Il est très bon au foot, il est très bon au cage. On croit qu'il peut avoir une très bonne carrière devant lui. C'est énorme parce qu'il vient du PSG, je suis supporter de l'OM. Et ma mère me dit, chut,
chut, chut. Pas dire. Ouais, vous avez rangé toutes les reliques de la maison, il n'y a rien, plus rien de l'OM.
Etc. Et là, en fait, il me dit, dis-toi Alexandre que c'est il y a 20 ans. J'ai 11 ans à cette époque-là, 11-12 ans. C'est pas le PSG d'aujourd'hui, c'est pas le PSG Qatari, c'est le PSG qui... Je suis même pas sûr que ça soit Bazin. C'est-à-dire que c'est le PSG qui souffre, c'est le PSG qui est en galère et qui en fait galère pour sa vie, pour se maintenir en Ligue 1. Ouais. Tu vois, c'est ce que t'as très bien raconté Sébastien Bazin, on est dans ces années-là. Et à ce moment-là, le patron du PSG, de la cellule de préformation, dit à ma mère, écoutez madame, il y a juste un souci, c'est que vous habitez Saint-Denis. Nous, votre gamin, il a 11-12 ans, il a besoin de vivre là-bas. Il a besoin de vivre à Verneuil-sur-Seine, c'est pas loin de Poissy, c'est pas loin de Saint-Germain-en-Laye, parce qu'il ne peut pas revenir tous les jours chez vous. Et donc, il a besoin de manger là-bas, il a besoin de dormir là-bas. Parce que les gamins des alentours, eux, ils ont le droit d'entrer chez eux le soir parce qu'ils sont à 10 minutes. Vous, il y a 1h30 de route, donc c'est pas possible. Et là, il lui annonce un prix, qui était un prix qui était pas incroyable. Je crois qu'il lui annonçait 4000 euros ou 3800 euros, mais pour une mère toute seule, c'est un truc de fou. Mais c'est rien, je veux dire, parce que les gens qui nous écoutent, ils disent 4000 euros, c'est énorme. Oui, mais c'est rien pour un gamin qui va vivre 10 mois dans un centre, logé, nourri, comme on dirait presque blanchi.
Donc là, elle peut pas.
Et là, ma mère peut pas, mais pour d'autres raisons. Voilà.
Elle veut pas te voir partir?
C'est pas qu'elle veut pas me voir partir, c'est qu'elle me dit une célèbre phrase que j'ai encore retenue toute ma vie. Ma mère, elle a réfléchi 24-48 heures, elle savait que mon rêve était d'être footballeur professionnel, et elle me lâche cette phrase qui est encore dans ma tête, et j'essaie de la dire exactement. Elle me dit, mon fils, je vais dire non à cet éducateur et à ce directeur du centre de formation. Là, je réagis mal, je pleure, etc. Elle me dit, je vais dire non pour une raison. C'est pas pour l'argent. C'est parce que t'as 11-12 ans aujourd'hui, et il n'y a qu'un seul Zidane, mais il y a des centaines de milliers de médecins. Et elle me dit, mon fils, il y a des centaines de milliers de médecins, je préfère que tu deviennes un des centaines de milliers de médecins que plutôt Zidane.
Mohamed, passons à une pause amicale, je devrais dire plutôt familiale, tu vas comprendre le connexion. J'ai demandé à quelqu'un que tu connais très, 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 très bien de te poser une question. On écoute.
Donc, la question qui me turlupine depuis des années, Mohamed, mon fils, dis-moi, tu étais jeune, tu voulais que je t'inscrive à l'école de foot du PSG, au centre de sport du PSG. Et je t'ai dit, tout le monde n'est pas idem, tout le monde n'est pas professionnel et tout le monde n'est pas idem. Est-ce que, mon fils, tu m'en veux jusqu'à maintenant ou pas? Est-ce que j'ai pris la bonne décision de t'inscrire dans des écoles privées où tu faisais que des études ou bien tu m'en veux parce que je ne t'ai pas inscrit dans une école de sport? Merci Mohamed, merci mon fils, je t'aime.
C'est marrant que tu m'en parles.
Je ne savais pas déjà. Ma mère est capable de faire des choses comme ça, c'est-à-dire qu'elle est capable de ne pas me dire. Je lui dis à chaque fois si tu as un truc, dis-moi. Mais elle veut garder des trucs comme ça, je sais pas.
Donc là, c'est marrant que tu m'en parles juste avant. Elle décide d'une trajectoire de vie qui ne sera plus du tout la même pour toi.
Non.
Et 20 ans après, je pense qu'elle s'est dit, j'ai tout fait bien tout le temps, pour toi au mieux, avec sa perception. Là, elle dit, est-ce que tu m'en veux? Parce qu'elle sait à quel point tu étais triste à ce moment-là.
Ouais, parce qu'elle sait aussi que ma mère, mais ça pourrait être un autre pause avec ma mère, parce que ma mère est incroyable, et ma mère, je lui offrirai une biographie un jour. Ma mère elle n'a pas eu la chance de mettre en application ses rêves et ses choix. Elle a été toujours un peu contraint dans ses choix. Et ma mère a été dans l'enfance quelqu'un d'exceptionnel qui m'achetait beaucoup de livres, qui me disait lis. Et qui, quand ça s'est arrivé, j'étais vraiment très fort dans les cages. Et tu vois, j'ai pas eu l'appendicite, j'ai pas eu les ligaments croisés comme les mecs, tous les mecs mentent, etc. Ils disent ouais, j'ai failli être footballeur professionnel, j'ai juste une angine à 8 ans. Non, moi j'étais très fort dans les cages. Et je vois encore ce rendez-vous à la maison, dans ma cité. Et ma mère dire non, il y aura le centre de formation, il y aura les blessures, il y aura un Zidane pour des centaines de milliers de médecins. Et je vais la rassurer et je vais lui dire, parce que ma mère est capable de vraiment te culpabiliser aussi sur ce genre de choses. Et je pense que si elle t'en parle aujourd'hui, c'est qu'elle vraiment, elle a encore ce truc-là au fond du cœur. Sur le moment, j'en ai voulu.
Bien sûr.
Parce que je voulais devenir footballeur professionnel, etc. Mais aujourd'hui, je me dis, elle a tellement raison parce que tu sais, j'ai présenté un podcast aussi qui s'appelait Hors Terrain où je rencontrais des footballeurs professionnels. Et ces 10 joueurs professionnels qui ont été des grands joueurs, il y avait Marquinhos dedans, il y avait TJ Savanier, le milieu de terrain de Montpellier, il y avait Oussem Aouar de Marseille, des grands joueurs. Tous m'ont dit exactement la même chose. Il y a eu Rongier aussi dedans. Leur pire souffrance, c'était le centre de formation. Donc aujourd'hui, si je devais dire un truc à ma mère, c'est merci, parce qu'elle s'est toujours sacrifiée pour nous. Elle a toujours fait en sorte que moi en tout cas, de m'offrir la culture et l'éducation la plus importante et élevée possible. Donc elle s'en veuille surtout pas, je vais lui envoyer un texto dès que je vais sortir.
Merci Nassira pour ta question.
Quelqu'un qui se bat pour devenir français aime encore plus la France que les autres. On s'en rend pas compte. J'étais encore avec des jeunes il y a quelques jours, des gamins qui avaient 20 ans, et je leur disais, vous vous rendez pas compte de la force de ce pays et comment c'est le plus beau pays du monde.
Tu restes dans le 16e pour le lycée.
Oui.
Une fois bac en poche, tu intègres l'Institut européen de journalisme, ouais. IEJ, dont on en parlait tout à l'heure. Tu fais des stages, tu te débrouilles, tu obtiens chez RMC, le début d'une grande histoire chez RMC. Là, tu commences à... Tu as compris que le foot, c'était fini. Tu commences à te projeter de plus en plus comme un homme de médias. Ça arrive à quel moment où tu dis juste, c'est là, c'est ce que je veux faire.
En fait...
T'avais une icône, toi, quelqu'un que tu disais, tiens, il est...
J'ai eu des modèles, ouais. Tu vois, j'ai eu des gens que j'ai appréciés, j'avais pas forcément d'icônes. Moi, mes icônes, c'était dans le foot.
Ouais, enfin,
Zidane, pour moi, quand j'ai ramené Zidane à Marseille, j'ai pleuré mais pendant 3 heures. Je tremblais. Donc Zidane a été une sorte de père spirituel à un moment dans ma vie où je m'entendais pas avec mon père, mon père n'aimait pas le foot, il me tapait. Donc c'est Zidane qui est arrivé, 98 et 2000, l'Euro, 2001, 2002, la finale de la Champions League avec le Bayer Leverkusen et Real Madrid, etc. Mais j'ai pas eu d'icône, mais j'ai eu des modèles. Daniel Riolo à RMC en a été un. Oui. Daniel a été un mec qui m'a mis le pied à l'étrier, est un ami, et Daniel a été un mec exceptionnel avec de grandes valeurs. J'ai eu ensuite Thierry Gilardi qui est parti beaucoup trop tôt. Et pour revenir à ta question, quand j'étais plus jeune, parce qu'on vient d'écouter ma maman, mais moi ce que je faisais avec ma maman, je faisais des émissions comme 120 minutes pour convaincre. vous avez la parole, en fait. Et donc, en gros, je faisais, elle jouait le rôle de Nadine, le rôle de Sandra, le rôle de
Bernadette. Dans la voiture, c'était dans la voiture.
Voilà, c'était
pour
dans
aller...
la voiture ou à la maison. Et moi, je jouais le rôle de Nicolas Sarkozy, de Dominique de Villepin, de Ségolène Royal, etc. Et je me battais.
Tu prenais de l'accent aussi ou pas? Tu prenais.
Écoutez-moi, monsieur Alexandre Mars. Écoutez-moi. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps.
Nicolas, ça, pour ceux qui ont pas compris, c'est Nicolas Sarkozy. Et tu fais les gestes aussi.
Plutôt bien fait.
Tu es très bien fait. En plus, tu fais les gestes.
Alexandre Mars. Écoutez-moi, je vais tout vous dire. J'ai aucun problème à vous dire la vérité. Et si Mohamed suivait mes chemins et mes pas quand il était plus jeune pour m'imiter, bah c'était une très bonne chose pour lui. Et on l'a vu aujourd'hui. Bon, en tout cas, je trouve que je l'imite très mal. Mais plus sérieusement, c'est quand même.
T'as grandi, tu t'es amusé, tu.
Ouais. J'adorais la politique. J'adorais la politique. Et en fait, je me suis dit, ces gens-là en politique, les journalistes politiques ont 70 ans, 60 ans, ils sont toujours là dans 20 ans, alors que les journalistes dans le sport, ils sont jeunes.
Quand tu parles de politique, tu pourrais te voir, toi. Là, sur ces sujets-là, on t'a demandé de rejoindre des listes. Tu te considères comme apolitique parce que c'est important de pouvoir parler aussi bien avec la droite et la gauche.
Alors, je suis apolitique par rapport à mon métier.
Bien sûr.
Je vais faire la même réponse que Sébastien Bazin, que j'ai écouté, une réponse qui était passionnante. J'adore la politique. C'est quelque chose qui me passionne.
Mais Sébastien aurait pu ou était très proche de potentiellement rentrer dans la politique. Il a hésité longtemps.
On m'a jamais fait de proposition. D'accord. Bien évidemment, ce n'est pas possible parce que je suis journaliste et que je traite l'actualité politique.
Mais un jour.
Et aujourd'hui, je suis très bien en tant que journaliste.
Donc, RMC, quelques années plus tard, on en parlait tout à l'heure, le directeur général de RMC Sport et de SFR Sport, François Pessanti, te confie. Alors là, directement, et là, t'as 23 ans. La direction du football pour ce groupe-là.
Un peu plus tard, 25.
25. Ouais. Mais excuse-moi, ça reste extrêmement jeune. Comment les autres ont vu ça?
Moi, une énorme fierté.
Et merci François Pessanti.
Et franchement, ça s'est plutôt bien passé, Alexandre. La vérité, tu vois, je pourrais dire, ouais, j'ai dû me battre, etc. Alors que, en fait, pas du tout. Beaucoup de gens l'ont accepté. Moi, j'ai fait preuve aussi de beaucoup de flexibilité. C'était pas simple de donner des ordres à des gens de 55 ans, mais même je refusais de donner des ordres. J'ai toujours pensé, et c'est un truc que j'ai lu dans les livres plus jeunes d'entrepreneurs ou de grands patrons ou de grands dirigeants ou de grands présidents, que le pouvoir ne s'exprimait pas par une forme de coercition, mais par une forme de légitimité. Enfin, j'ai toujours pensé que le pouvoir était légitime. En fait, on n'est pas là en train de... Tu parlais tout à l'heure de la violence. On n'acquiert pas le pouvoir par la violence. On acquiert le pouvoir par... Oh, putain, t'as vu, il a des super bonnes interviews. T'as vu, il a des super bonnes idées. Ah, t'as vu, il construit des choses exceptionnelles. Ah, t'as vu, il s'est fédéré une équipe. Et donc, j'ai toujours essayé de mettre en place cela quand j'étais à RMC.
Tu présentes une émission Breaking Foot. Tu prends la tête de Top de Foot avec Jean-Louis Touré. Et ça me fait penser à Nathalie Nianeta, je sais que tu l'apprécies aussi beaucoup, c'est elle qui t'a fait pour la première fois
rencontrer
la première photo Zidane. Avec Zidane. Nathalie, que j'aime beaucoup, directrice des sports chez Radio France, elle était ici aussi quelques temps, je vais la citer. En France, le journalisme sportif est un sous-journalisme, à l'école, le sport est une sous-matière, et donc j'ai toujours eu ce sentiment que je n'étais pas une vraie journaliste, donc moi-même participer à cet auto-mépris. Est-ce que toi, tu l'as senti, ce mépris pour les journalistes? Et est-ce que c'est ça aussi qui t'a fait petit à petit évoluer vers une plus grande évolution, ne pas uniquement faire le journalisme sportif?
Alors déjà, j'ai toujours détesté, et c'est Michel Denisot qui le disait aussi très bien, mais qui a fait d'autres choses, donc on l'a un peu oublié cette phrase. Pour moi, le journalisme sportif n'existe pas. Un journaliste sportif, c'est un journaliste qui fait du jogging, c'est un journaliste qui fait du foot, c'est un journaliste qui fait du tennis. Ça s'appelle un journaliste sportif. Mais c'est pas, le journaliste sportif n'existe pas. On est journaliste de sport. D'ailleurs, tu sais peut-être que l'AFP demande à ses journalistes tous les 4 ans de changer de cursus ou de changer de ville ou de changer de service.
Attends, de tourner.
Moi, j'ai couvert le Bataclan, par exemple, et j'ai passé un moment, malheureusement, une tragédie, mais journalistiquement parlant, un moment incroyable, un moment d'une vie. Et donc, ce jour-là, c'était la rédaction des sports qui s'occupait du Bataclan. Parce que c'était un vendredi soir, il y avait un France-Allemagne. Et que les journalistes IG, Information Générale, étaient rentrés chez eux. Pour moi, le journaliste de sport, elle a raison, Nathalie, est méprisé. Et j'ai choqué un peu les gens quand j'arrivais à RMC ou à BFM en costume-cravate. Mais pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'être en costume-cravate? Pourquoi les journalistes politiques comme Alain Duhamel et tous les autres ont des beaux costumes-cravates? Ouais. Et moi, je travaille dans le foot et j'ai pas le droit d'être en costume-cravate? Ben non, désolé, j'aime les costumes-cravates. Et je représente mon métier, mon service et surtout, je respecte les téléspectatrices et téléspectateurs.
On continue dans la famille, on va avoir une question posée par un petit neveu.
Momo, c'est que ton joueur préféré du foot, mais qui passe pas encore à la télé. Gros bisous.
C'est Léo.
Petite voix adorable.
C'est mon bébé.
Ouais. C'est encore mon bébé. Encore un autre.
Ouais, c'est mon bébé, Léo. C'est, donc c'est, euh, C'est le neveu d'Angéline, le fils de Laureline. C'est mon bébé, c'est lui qui a découvert le football avec moi, qui a découvert, je l'ai emmené au Parc des Princes pour la première fois. Je suis très attaché à la famille et parce que je sais aussi que je mesure la chance de ne pas pouvoir accorder beaucoup de temps à ma famille et à ces moments-là.
Donc il te pose une question assez fun. Hein. Quel est ton joueur préféré qui ne passe pas encore à la télé?
Ben, c'est lui.
Ouais, c'est ça.
C'est lui, en fait. Il est brillant. Il a 5 ans. Il est brillantissime. Il sait très bien qu'il passe pas encore à la télé, mais qu'il joue tellement bien au foot.
Léo, c'est toi.
Donc, Léo, c'est lui que dans 20 ans, les journalistes vont interviewer. Et c'est un petit gamin qui est formidable avec des valeurs exceptionnelles. Des valeurs comme sa sœur Théa qui sont géniales. Et c'est ça qui est important. C'est quand, en fait, j'ai découvert aussi avec Laureline, leur maman, la capacité de comprendre et aussi avec ma sœur Linda, que quand on est une maman et un papa même aussi, qu'on transmet des belles valeurs, on peut permettre à ses enfants de partir différemment dans la vie.
Merci Léo. 2021, tu quittes le groupe BFM Réunionnais, tu rejoins France Télévisions. Décision facile à prendre, de toi qui t'attaches rapidement aux gens, que t'aimes les gens, ça a dû être un coup compliqué.
Ça a été une décision très difficile à prendre. Parce que t'as l'impression de quitter ta maison, quitter ta
11
famille.
Ans.
11 ans dans la même boîte, t'as l'impression d'être chez toi, t'es dans tes pantoufles, etc.
Au mercato, là, comment ça se passe?
Bah, c'est une anecdote très, très simple. C'est Pierre-Antoine Capton,
patron de Media One.
Patron Media One, qui vient à la maison le 1er avril 2021. Toi, je m'en rappelle encore comme aujourd'hui. J'avais fait les choses super bien. J'avais pris un chef, un ami à moi qui est chef, pour qu'il cuisine à la maison. Je voulais accueillir dans les bonnes conditions Pierre-Antoine. Il est venu à la maison et on a mangé ensemble. On s'était vu quand même à plusieurs reprises auparavant, etc. On était devenus amis avant même de travailler ensemble. Un an avant, il m'avait appelé pour cet avou déjà. Et je lui avais dit, mais non, j'ai donné ma parole pour Top of the Foot.
Ouais.
Il m'a dit, ok, t'as donné ta parole, je la respecte. Il m'a plus parlé pendant 6 mois. On est allé manger ensemble dans le 8e arrondissement. Et en fait, un jour, on se dit, bah, on va dîner chez toi. Et donc, il vient à la maison. Et incroyable, mais vrai, Pierre-Antoine me donne mon agenda sur 4 ans. Mais vraiment. Il me dit, en 2021, à la rentrée 2021, ça va se passer comme ça. En 2022, ça va se passer comme ça. En 2023, ça va se passer comme ça. Et en 2024, ça va se passer comme ça. Et je te jure, Alexandre.
Tout se passe.
Que tout ce qu'il a dit, je te jure, je suis choqué. Tout ce qu'il a dit.
Il est bon, hein.
C'est passé comme ça. Il m'a dit, une année de transition. Il y a une radio qui va venir te chercher. Donc, RTL est venu. Il m'a dit, ensuite, tu vas gagner en notoriété. Tu vas faire ensuite d'autres émissions sur France Télé. Ensuite, tu vas produire des documentaires. Et tout, je te jure, au mois près.
Donc, qu'est-ce qu'il t'a dit qui n'est pas encore passé? Parce que là, on n'est pas encore à la fin des...
Il m'a dit, le 1er avril 2021, il m'a dit, alors, soit tu vas réussir... Il est fan de foot. Ouais. Il est propriétaire de Malherbe.
De Caen.
Il est propriétaire de Caen. C'est un mec qui est passionné de sport. Il me dit, soit tu deviens un très grand journaliste dans le milieu du sport et tu continueras à l'être et tu vas rester toute ta vie dans ce milieu-là et tu pourras pas sortir. Soit il y a des virages à prendre. Et là, t'es dans le virage parce que t'as acquis suffisamment de notoriété dans le sport pour venir te faire découvrir par un autre monde. Et à ce moment-là, je découvre un mec en face de moi qui est brillant, qui est bienveillant, qui est fédérateur. Et le 1er avril 2021, je sais très bien que je vais quitter RMC et BFM et le groupe Altice pour rejoindre Pierre-Antoine.
À la fin de ce déjeuner. On continue avec une pause média. Nous allons sonder un peu plus ton profil de journaliste et tes goûts. Ouais. Question simple, tes réponses, j'espère, assez directes. Quelle est ton émission de télévision préférée?
C'est à vous. Non, mais c'est honnête parce que, alors tu vois, Alex, je peux pas te mentir. Tu sais quoi? Il y a Dounia avec nous, tes équipes peuvent aller vérifier. Avant d'arriver à cette à vous, j'avais accordé une interview à Pure Média. Et en fait, c'était les médias, enfin, c'était l'interview de la décennie. En gros, il disait depuis 10 ans, quelle est votre émission, Namina? Je ne connaissais pas Pierre-Antoine ou je ne lui avais jamais parlé quasiment avant.
J'avais déjà dit
cette à vous.
Ton émission de radio préférée? Focus dimanche.
L'Afterfoot. Non, là, je vais pas me citer moi-même. Tu me dis, le mec, il dit Focus dimanche. L'Afterfoot.
Celle que tu regardais le plus quand tu étais petit?
Tout le monde en parle. Ou on a tout essayé, les deux.
Celle que tu suis le plus aujourd'hui?
Je regarde beaucoup malheureusement les chaînes d'information. Je suis très accroché à ça. Sans doute...
Le groupe BFM encore?
Ouais, encore beaucoup de BFM, parce que j'ai encore beaucoup d'amis, etc. Mais quand je dis malheureusement, c'est pas du tout une critique envers BFM. Non, c'est surtout qu'on a un maximum d'informations qui nous tombent dessus. Non, je vais dire quelle époque?
Quelle époque, ouais. Avec Léa Salamé,
ouais.
Celle que tu aurais aimé intégrer?
Sans doute tout le monde en parle parce que Thierry Ardisson était un mec incroyable dans la présentation où ça se discute de la rue. Voilà, Jean-Luc Delarue est pour moi, beaucoup de gens disent aujourd'hui que je lui ressemble. C'est pour moi une fierté incommensurable.
Tu parles Jean-Luc Delarue, un animateur de référence pour toi, ou une animatrice de référence?
Un animateur de référence, je vais dire Jean-Luc Delarue. C'est, pour moi, c'est l'idole absolue. C'est l'homme qui avait la capacité d'écouter et avait de la bienveillance et de l'empathie.
Un conseil pour celles et ceux qui aspiraient à devenir journalistes?
Avoir beaucoup de curiosité. Avoir beaucoup de curiosité, c'est peut-être le conseil le plus basique. Et surtout, avoir du culot, de l'audace. Je ne sais pas si dans cette pause, je peux faire une petite anecdote.
Je pense qu'on en a fait beaucoup,
un jour, dans un train, j'avais pris une première classe pour revenir de Marseille. Il y avait un match de l'OM, un gros match de l'OM, et au retour, le train repartait sur Paris. Et j'avais pris la première classe parce que je savais que dans la première classe, il y avait toujours des joueurs de foot et je voulais avoir leur contact téléphonique ou des journalistes. Et je me retrouve à côté de David Berger, grand commentateur de Canal+. Je laisse passer la gare d'Aix-en-Provence et je lui dis, il reste 2h58 de train. Et au bout de ces 2h58 de train, je vais avoir un stage à Canal+. Et c'est comme ça que j'ai eu un stage à Canal+. C'est comme ça que j'ai rencontré Nathalie Yaneta et Grégoire Margoton. Il faut avoir du culot. Et de l'audace.
Hein.
Ouais. De l'audace. Et en fait, n'ayez pas honte. Là, c'est un conseil qui est moins prévisible, j'ai envie de dire. N'ayez pas honte. On vous reprochera jamais de venir nous déranger, de venir... Quand je dis nous déranger, c'est les personnalités de la télé, les producteurs, etc. De venir nous déranger ou de venir nous présenter des projets. Moi, j'adore Xavier Niel, que j'ai croisé l'autre jour, me disait que quand je rencontre un mec dans la rue, je lui donne une même adresse et je réponds au mail. Je sais qu'il est comme ça parce qu'avant même qu'il me connaisse, je lui avais envoyé un mail et il m'avait répondu.
Xavier Niel, que les gens connaissent évidemment, un entrepreneur incroyable et qui a fait beaucoup de bien sur différentes activités, en particulier de la tech en France, en mettant beaucoup d'investissements et en montrant que l'entrepreneuriat était faisable, accessible pour beaucoup. Et en effet, c'est assez incroyable, il répond à ses emails dans la journée, ce qui est quand même assez rare. Tout le monde n'est quand même pas, créer un monde parfait.
Je lui avais dit en plus.
Tout le monde ne fait pas ça, mais en tout cas, Xavier Niel le fait. Au-delà, c'est à vous. On parlait d'RTL 2022, tu as ton émission sur RTL le dimanche. Là-dessus, tu rencontres et tu as des gens chez toi, puis tu as reçu énormément de gens, Brigitte Macron, Omar Sy, Didier Deschamps, évidemment, enfin, Olivier Giroud.
Toi aussi.
J'ai eu la chance aussi d'être là. Est-ce qu'il y a une personnalité? Et encore une fois, c'est compliqué parce que c'est un temps court, même si tu as une heure, c'est 10 minutes, c'est avec plusieurs invités. Donc c'est difficile d'aller vraiment profond. Mais est-ce que tu as une personnalité qui t'a vraiment marqué?
Je ne sais pas s'il y a une. Il y a des témoignages qui m'ont beaucoup marqué, des témoignages qui m'ont vraiment choqué. Cette maman qui a perdu l'un de ses enfants dans un accident de trottinette et qui raconte comment elle se bat pour faire en sorte qu'il y ait des règles désormais pour les adolescents avec les trottinettes. Ce papa, Lucien Douib, qui a perdu sa fille Julie Douib dans une affaire de violence conjugale. Voilà, ces discussions-là, ces témoignages-là me marquent. Il y a plutôt des interviews réussies que plutôt des ces témoignages-là, c'est eux qui me bouleversent.
Ouais.
C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'être connu pour me bouleverser. Il n'y a pas de rencontres extrêmement marquantes. Il y a des interviews réussies. Tu vois, celle de Gérald Darmanin, qui est un mec qui est quand même assez dur en interview, etc. C'est l'interview pour moi qui est quasi parfaite. C'est-à-dire que on va sur l'actualité, il donne des choses. Et là, à la fin, il révèle malheureusement pour le drame qu'il a vécu de sa vie. C'est pour ça qu'il est aussi engagé dans les violences intrafamiliales. Il révèle que son petit-neveu a été assassiné par son ex-beau-frère. Et là, on est dans un moment
unique
de journalisme, pause, pour moi, une pause unique. Et Gérald Darmanin a reçu des centaines, il me l'a dit, ses équipes me l'ont dit, de messages, etc. Et c'était une interview parfaite. Et ce jour-là, j'ai l'impression d'avoir vécu un grand moment avec le ministre de l'Intérieur par rapport à cette interview.
Et tu dis une chose assez juste sur la radio, c'est pour ça qu'elle te manque. Est-ce quelque chose, c'est ton métier historique au départ. Tu dis, c'est un lien direct avec les gens. La télévision, c'est autre chose. C'est une image, une posture. La radio, c'est le média de confiance. Il n'y a qu'une voix. On se fie à cette voix-là, même si c'est de plus en plus filmé, malheureusement. On peut créer une rencontre. Ça, et je te rejoins parfaitement là-dessus.
C'est ce que
totalement.
Tu fais, hein,
et c'est pour ça que j'aime vraiment le podcast, parce que on a la chance d'avoir un peu plus de temps, même beaucoup plus de temps. Donc on va encore plus dans le.
Et c'est pour ça que les gens écoutent de plus en plus de podcasts.
C'est sûr, t'as raison. Je te propose cette nouvelle pause amicale. On en a parlé tout à l'heure, on l'écoute.
Salut Mohamed, c'est François. Je suis d'abord très heureux que tu fasses aujourd'hui le podcast d'Alexandre, qui est aussi une personne très inspirante et très engagée. Tu fais aujourd'hui beaucoup de choses dans les médias avec grand talent. Mais moi, il y a un domaine dans lequel tu me manques énormément, c'est celui de l'information sportive. Donc j'aimerais savoir si ça te manque aussi. Je vous embrasse.
Merci François, donc on en parlait tout à l'heure, directeur général de RMC Sport. Qu'est-ce que tu lui réponds?
François Pesentier a été un mec qui m'a... Je te disais, dans les deux personnes de ma carrière qui m'ont élevé, il y a François Pesentier et Pierre-Antoine. François a été le premier à m'avoir fait confiance. Il avait notamment lâché un jour cette phrase dans une réunion, cette phrase qui m'a été relayée. J'adore Mohamed parce qu'il a un accent, vous voyez, il a un accent un peu, il est de Nîmes. Donc j'adore Mohamed parce qu'il a pas de vie sociale, il pense qu'au travail. Et donc il m'avait fait rire. Et donc ce mec-là n'a pas hésité à me donner les clés très jeune. Parce qu'il disait dans les réunions, lui il bosse et ça m'a beaucoup touché. Et il a raison de dire que quand il est parti tout d'abord, quand il a quitté le groupe, ça a été un déchirement pour moi, ça a été un déchirement pour toute la rédaction et la rédac ne s'en est jamais relevée. Et oui, l'information sportive, ça manque beaucoup. Ça me manque beaucoup parce que le lien avec les fans de sport est absolument dingue. Moi, il y a des gens devant plusieurs amis qui ont pleuré dans mes bras, qui écoutaient la radio parce que tu parlais de gain de confiance. J'ai eu des discussions avec des gens qui n'avaient que la radio, qui n'avaient que RMC, qui n'avaient que l'Olympique de Marseille. Et ça, le lien que j'avais créé avec les gens sur l'actualité du football, je faisais des 4 millions de vues par tweet. Alexandre, le jour où j'annonce Messi au PSG, je fais 21 millions de vues. 21 millions de vues sur un tweet avec 180 caractères. Je suis repris par Reuters, l'AFP. Le jour où j'annonce David Beckham, c'était il y a quelques années, oui. Bah, c'était différent. Mais le jour où Neymar, je fais quasiment 30 millions de vues. Ces trucs-là, c'est des chiffres que je ne referai jamais.
Là, on parle de réseaux sociaux, on parle de ces nouvelles plateformes qui sont très complémentaires et que tu utilises très bien parce que tu es extrêmement suivi encore aujourd'hui. Tu disais quelque chose de très intéressant. Est-ce que tu penses, et c'est important pour les gens qui nous écoutent, que tu aurais pu réussir sans travailler plus que les autres ?
Non. Non, absolument pas. J'ai conscience de tous mes défauts, j'ai conscience de mes failles, j'ai conscience de mes difficultés, tu vois. Là, je ne sais pas si ça s'entend, mais tu vois, j'essaie de gommer chaque faille, mais j'ai des problèmes liés à ma mâchoire de l'enfance que je gomme, donc j'ai une petite gouttière. Et tu vois, j'essaie de travailler tout au détail. Je suis quelqu'un qui est assez millimétré. À RMC, par exemple, j'étudiais à l'école de journalisme en même temps que je travaillais à RMC. J'étais à l'école de journalisme de 8h à 13h et j'étais à RMC de 14h à 1h du matin. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 6 jours sur 7. Je pense que ma mère m'a inculqué une seule chose de plus important que tout. C'est le travail. Ma mère détestait le côté victimaire. Le travail, c'est la chose la plus importante.
Et on va continuer avec une autre pause amicale. C'est incroyable, les questions et le nombre de personnes qui veulent te poser une question. Aujourd'hui, on l'écoute.
Mohamed, tu es parti du foot pour aller désormais vers tous les sujets à travers tes interviews. Tu sais à quel point je suis heureux que tu sois parmi nous à RTL, vraiment. Mais je me demandais... Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Comment tu te vois dans 10 ans ?
Question de Régis Ravanas, président de RTL, quelqu'un que je connais depuis très longtemps, que j'apprécie énormément. Et j'aime bien cette question, on en parlait un peu tout à l'heure. Dans 10 ans, c'est quoi ?
Tout d'abord, je voudrais juste te dire que j'ai hésité à rejoindre RTL parce que, non pas parce que c'est pour moi la plus belle des radios, mais ça arrivait trop vite par rapport à RMC. Et je me disais, mais cet avou me prend tellement de temps que je me suis dit, je ne peux pas ne pas donner le meilleur de moi-même. Et Pierre-Antoine Capeton encore m'a dit vas-y, parce qu'il est très ami avec Régis, il m'a dit vas-y, tu vas te régaler. Et je voudrais juste remercier aussi un homme, Stéphane Sidmon Gomez, parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai rejoint France Télévisions. C'est le patron de France Télévisions et il m'a motivé pour me dire on va te donner les clés, on va te faire grandir, etc. Et il m'a dit c'est bien RTL, ça va te permettre d'avoir de la notoriété et ça va te faire grandir. Et c'est vrai que j'ai rejoint RTL pour Régis, pour un autre homme aussi qui s'appelle Jacques Esnoux, qui est l'ancien patron de l'information. J'ai rencontré Régis Ravanas et Jacques Esnoux. Et Régis Ravanas est un mec brillantissime que tu connais bien, exceptionnel, qui est un mec qui me fait confiance, qui est un mec qui me donne les clés, qui me dit crois en tes rêves, qui me dit vas-y, tu veux faire ça ? Vas-y, juste ramène-le. Mais pour répondre à ta question sur les 10 ans, parce que j'essaie de gagner du temps.
Tu gagnes du temps, tu réfléchis.
J'ai un grand rêve que je veux garder pour moi, parce que j'ai peur de me mettre l'œil. J'ai un très très grand rêve.
Président d'un club.
Non, mais j'ai un grand rêve que je vais garder pour moi. Et ensuite, le reste, le deuxième, j'ai un grand rêve et un petit rêve. Le petit rêve, ça se fait pas dire ça en plus. J'ai deux grands rêves. Non, les deux grands rêves, Régis le sait, c'est de continuer à grandir à RTL, etc. Mais surtout, le grand rêve, c'est d'être patron d'un groupe de médias, de pouvoir donner la chance aux autres, de pouvoir transmettre. Ça fait maintenant, même si j'ai été jeune, j'ai bientôt 32 ans, mais ça fait 13 ans que je suis dans le milieu, 14 ans, et j'ai envie de transmettre aujourd'hui et de grandir.
Donc, entre patron d'un groupe média et producteur, tu sais que tu ne peux pas faire les deux ? Ce serait quoi, celui qui prendrait ?
Je pense qu'on peut faire les deux. À des moments différents.
Tu commences en producteur et tu termines par...
Voilà, où je terminerai par un patron de média. Mais Régis, quand je vois par exemple le lien... Régis, par exemple, il faut savoir qu'on parlait des grands chefs. Tous les matins, Régis, il est au 7h40 d'RTL. Tous les matins, il est là et il assiste il a 4 enfants, dont un enfant qui est jeune, très jeune. Il est là tous les matins à 7h40. Si lui, il y arrive, pourquoi moi, je pourrais pas y arriver? Parce que il arrive à s'organiser.
Un moment aussi essentiel, un moment aussi essentiel dans ton parcours de vie, c'est le 4 décembre 2013. Ce moment-là où tu as quelque chose, et je le dis parce que pour beaucoup de gens, c'est donné à la naissance, c'est
la naturalisation
française.
Ouais.
Et donc là, toi qui avais vécu tous les 12 mois d'aller chercher à nouveau un petit document pour que tu puisses être sur le territoire, ce moment-là, il est unique pour toi.
C'est un moment qui est unique. Il faut savoir que une personne qui grandit en France a le droit d'être naturalisée à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait toute sa maternelle, sa crèche, l'école élémentaire et le collège a le droit d'être naturalisée en France à l'âge de 13 ans. Et on revient à mon père. Comme mon père était parti et avait déchiré mes papiers d'identité, était parti, ne donnait plus de nouvelles, pas de livret de famille, pas d'extrait de naissance, pas de nouvelles, donc pas disponible pour répondre à l'État français pour ma naturalisation française à l'âge de 13 ans. Donc j'ai dû être naturalisé à l'âge de 21 ans. C'est un moment très douloureux quand tu pars au collège et que tu pars à Londres et que tout le monde est dans la case Union Européenne et que toi t'as ton passeport algérien. C'est pas du tout une critique envers l'Algérie, c'est une critique où le regard d'adolescent vers toi, sur le seul qui est à côté, t'as l'impression d'être seul au monde. Ce passeport algérien,
bien évidemment,
quelle que soit la nationalité, marocain, tunisien, Union Européenne. Et là, à ce moment-là, t'as l'impression que t'es le mouton noir. Tu vois, et tout le monde est blanc, tout le monde est beau, tout le monde est propre. Et t'as un mouton tout seul qui a 5 pattes. Et quand on revenait d'Angleterre, quand on est parti dans des pays hors Union Européenne pour des voyages scolaires, et j'étais tout seul dans ma petite file, avec passeport hors Union Européenne. C'est un moment qui est très douloureux. Et à 21 ans, je fais tout de suite... attention, hein, parce que je suis naturalisé à 21 ans, mais je fais l'objet de ma demande de naturalisation dès mes 18 ans. Quasiment une semaine ou deux semaines après ma majorité, je demande ça. Donc imagine le temps d'attente pour être naturalisé français. Et même dans mes voyages scolaires d'école de journalisme, etc. Et c'est un moment hors du temps. C'est un moment hors du temps. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est quelqu'un qui se bat pour devenir français, aime encore plus la France que les autres. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. J'étais encore avec des jeunes il y a quelques jours, des gamins qui avaient 20 ans, et je leur disais, vous vous rendez pas compte de la force de ce pays, comment c'est le plus beau pays du monde. Ce jour-là, Alexandre, j'avais des frissons. Et il faut savoir, là aussi, putain, ma vie est remplie d'anecdotes, mais de destins incroyables. Je devais aller en déplacement à l'étranger pour la Coupe du Monde 2014. Donc ce jour-là, je devais faire mon visa pour aller au Brésil, parce que je suis algérien, donc je devais avoir mon visa. Et le visa brésilien m'était 3 mois à obtenir. Donc il y avait un risque, si je déposais pas mon visa ce jour-là, que je puisse pas faire la Coupe du Monde au Brésil. Et donc je suis en train d'être naturalisé français, enfin c'est la cérémonie, je chante la Marseillaise.
Que tu connais, voilà, pour le coup.
Que je connais vraiment par cœur, mais les autres couplets aussi. J'ai la main sur le cœur. Et là, il y a le sous-préfet qui me voit et qui me voit pleurer. Et en fait, j'ai les larmes de bonheur et j'ai des larmes de tristesse pour une raison très simple. C'est que je peux pas faire ma carte d'identité et mon passeport français à ce moment-là, puisque je dois rendre ma carte de séjour. Et ma carte de séjour, j'en ai besoin pour aller faire mon visa pour le Brésil. Donc, je suis dans une journée, un moment incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je tombe sur un sous-préfet. Maintenant, il y a prescription, donc je peux le dire, c'est un secret, qui me dit... Je vais vous remettre votre décret de naturalisation, vous allez garder votre carte de séjour et vous allez la faire tout de suite, votre carte d'identité, votre passeport aujourd'hui. Et vous n'allez pas perdre de temps. Et j'ai pas eu besoin d'avoir un visa pour aller au Brésil en 2014.
On parle de rencontres, on parle de gens
qui
tient la main, parce que ça va aussi être important dans le reste de ta carrière. Une autre pause, cette fois-ci une pause musicale.
Ouais.
Je propose à nos auditrices, nos auditeurs d'écouter, tu le sais, une chanson culte de l'invité. Quelle est ta chanson culte?
Chansons cultes, il y en a beaucoup, mais chansons cultes, on va dire, allez, pour faire plaisir, parce que c'est mon meilleur pote, mais on va dire Let Me Love You quand même, de DJ Snake.
On va en écouter un extrait. Pour terminer, passons à une petite pause alignement, donc inspirée de mon livre, nouveau livre, Pause pour une vie alignée. Quelques petits exercices qui sont à la fin du livre, comme
ouais.
Tu sais. Des choses simples, des choses un peu plus compliquées. Une
okay.
Chose simple. Quels sont tes deux petits plaisirs au quotidien?
de lire une trentaine de pages par jour, ouais. Quarantaine de pages de
n'importe livre. N'importe quel livre. Biographie,
roman,
fiction,
essai.
Un autre truc. Voilà. Quelque chose que t'aimes. Pardon, moi, c'est manger les Mont Blanc. Tu vois, moi, je suis fan de Mont Blanc.
Ouais.
Donc, toi, t'as un petit. Ça, c'est un petit plaisir. Moi, je vais manger un Mont Blanc ce soir. Je vais être.
Je vais manger un tiramisu ce soir. Et c'est un petit plaisir du quotidien, un tiramisu.
D'accord.
Notamment, certains de mes proches, une proche particulièrement tiramisu au Kinder. Et ça, c'est ma vie.
Quelles sont aujourd'hui ta plus grande limite?
Moi-même.
Toi-même?
Ouais. Parce que. On peut croire que la télé, c'est quelque chose qui nous pousse à être sûr de soi, à avoir de la confiance, parfois même à penser qu'on est arrogant. Mais c'est l'inverse. Et souvent, c'est qu'on fait de la télé ou qu'on est dans les médias parce qu'on a des failles et parce qu'on a envie d'être aimé. Et que je pense qu'il faut que je comprenne qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde.
Trois personnes à qui tu ne pourras jamais dire assez merci dans ta vie.
Ma mère.
La Sierra.
Je ne peux pas faire des duos.
Vas-y.
Ok, je fais des duos. Ma mère, ma sœur, Nadir et Aïda.
Tes voisins, donc, de Framboise.
Mes voisins de Framboise. François Pesanti et Pierre-Antoine Capton.
Ok, bah c'est un trois beaux duos. Tu sais dire merci?
Oui.
Tu leur as dit merci?
Je leur ai...
Je
ne suis pas pudique avec les gens que j'aime. Je suis pas pudique. Je suis pudique avec les réseaux, les médias, etc. Mais je ne suis pas pudique avec les gens que j'aime.
Là, c'est un message aussi hein, pour chacun d'entre nous. Des gens à qui on peut dire merci, faisons-le.
Ouais.
Des gens qui nous ont aidés, alors maman évidemment c'est facile, mais les autres qui, parce que de nouveau c'est une certaine reconnaissance qui leur est donnée, ils n'ont pas fait ça pour ça, tes voisins ils ont fait ça parce que c'est des humains, ils te voyaient.
Mais tu vois par exemple ma sœur, je ne suis pas sûr de lui avoir dit souvent je t'aime, ma sœur, alors que ma sœur est la première à m'avoir emmené au théâtre. L'autre jour je racontais à Lucini que c'est ma sœur qui m'avait emmené au théâtre, ma sœur elle m'a emmené au cinéma, ma sœur elle regardait avec moi 2-3 films par jour, au cinéma Gaumont de Saint-Denis.
Pourquoi tu n'as pas dit merci, tu penses?
Parce que ma sœur, elle est pudique et parce que moi, je suis très pudique aussi. Et qu'à ma mère, on se dit toujours je t'aime. Mais à ma sœur, c'est la femme qui m'a fait devenir ce que je suis devenu aujourd'hui.
Ouais.
Et je l'aime.
Voilà.
J'en ai profité pour ça.
C'est trop mignon, beau message. Et on va terminer avec une chose que tu aimes faire, mais où tu n'es pas bon.
J'allais dire le tennis. Je ne suis pas assez bon, je joue avec des potes et je ne suis pas assez bon.
Une chose que tu n'aimes pas faire, mais où tu es bon.
Je n'aime pas faire où je suis bon. Ah, c'est dur ça.
Ah oui.
Parce que franchement, où je suis bon, c'est souvent que j'aime faire les choses.
Mais parfois, ça peut arriver que tu dis que t'es bon à faire, mais ça te saoule de le faire. Mais t'es bon.
Ah, je vais te choquer là.
Ouais.
Les dîners de représentation.
Ouais. T'es bon
parce que Mais souvent, ça me saoule.
Dernière question. Ouais. Quelle est ta destination idéale pour faire une pause?
Deux destinations. Comme ça, je fais pas de malheureux. Marseille et la Normandie.
Est-ce que tu amènes encore Mita avec toi?
Ah putain, tu vas me faire pleurer. Ah, je m'attendais pas à cette question.
Mita, c'était ton confidente. Mita, c'était.
C'est mon doudou d'enfance, mais c'est moi en fait. C'est surtout moi, c'est mon surnom de tous mes proches.
De tous mes proches.
Malheureusement, dans ma vie actuelle, Mita, je ne le vois pas assez. Je le regrette, vraiment. Mais c'est comme ça. Il reviendra. Il reviendra.
Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux?
Oui.
Et donc là, lequel tu regardes le plus souvent?
Celui qui. Ils peuvent me contacter plus facilement sur Twitter ou Instagram. Instagram, ils m'envoient un DM et tu peux voir que je réponds. Pas toujours, mais je réponds à la plupart de mes DM.
Mohamed? Merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci beaucoup Alexandre. Merci de m'avoir touché, merci de m'avoir ému. Merci de ton écoute et de ta bienveillance. Et je conclue aussi par dire, parce que tu m'as écouté pendant toutes ces longues minutes, mais bravo pour tout ce que tu fais pour les autres et notamment parce que je t'avais reçu sur RTL pour évoquer Infinite. Et l'autre jour, pour mon documentaire, j'étais avec Xavier Niel et Xavier Niel, il me disait aujourd'hui, c'est pas à l'État de faire tout pour nous, mais c'est aussi à des membres de la société civile de devenir des gens qui vont transmettre aux autres. Et je pense que sans des personnalités comme toi, en fait, la société ne peut pas aller mieux. Et c'est là aussi, j'aime bien cette expression, mais il n'y a pas de flagornerie, mais on est dans une société où on ne dit pas les choses. Et on ne dit pas que certains peuvent inspirer d'autres personnes. Moi, ça ne me dérange pas de faire de la com sur mon tournoi si c'est pour ramener de l'argent ou si c'est pour inspirer d'autres personnes à faire ça. Et si toi, tu peux inspirer d'autres CEO et d'autres grands patrons à faire le même chemin que toi, ben on aura réussi. Tu vois, quand je suis content quand des grands patrons créent des fondations. Et donc, c'est une très, très belle chose. Donc, bravo à toi.
Merci Mohamed de l'avoir dit. Nous sommes des petits soldats. et nous savons pourquoi nous devons et que nous faisons ça. Donc je te remercie de mettre en avant, et on a beaucoup encore de choses à faire, toi, moi, ouais, et beaucoup d'autres, pour faire que cette société soit un peu plus juste. Et elle est absolument pas, elle est totalement injuste. Il y a beaucoup de travail, mais en tout cas, on se donne beaucoup de mal. C'est ça qui est important.
Merci. Et qu'on reste dans le plus beau pays du monde, qui est la France.
Et voilà, on est heureux d'être en France, c'est un superbe pays.
Merci à toi, Alexandre.
Merci, Mohamed. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars, ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.